Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est Warren le stratège, aka Warren Combe, qui revient aujourd'hui avec une nouvelle émission dans laquelle on va parler d'entrepreneuriat et on va parler de motivation. Et on va encore parler. Aujourd'hui, on reçoit un invité assez particulier qui est Jimmy, qui va nous entretenir sur son parcours et également sur son voyage en qualité de YouTuber. Alors, le but ici, c'est simplement de parler de son expérience et d'échanger de cela avec nous. Donc, sur ce, on va y aller. Voilà. Salut, Jimmy.
Salut, Warren. Bonsoir à tout le monde. Bonjour. Merci de m'accueillir parmi vous.
Merci, merci. C'est nous qui te remercions de nous faire l'honneur de venir partager ton parcours avec nous.
Et ça va faire avec plaisir. Merci à vous.
Avec voilà. Plaisir. Voilà. Donc, on va d'abord partager rapidement le direct, hein, afin d'inviter les gens à se connecter rapidement. Donc, c'est ce que je vais d'abord vite faire là sur mes différentes plateformes là, histoire de vite partager le direct afin d'appeler toute la communauté à être présent, parce que en même temps aussi, je pense que le parcours que tu vas nous partager aujourd'hui, pourquoi pas, je pense que ça peut inspirer plus d'un aussi. Donc, voilà. Donc, on va le faire comme ça. Donc, ceci étant, on va y aller parce que on parle du principe qu'il y a beaucoup de choses à parler sur toi. Pourquoi pas? Salut Tina, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On a déjà reçu un premier. Salut Tina, j'espère que tu vas bien. Partagez l'émission afin qu'on puisse passer un bon moment avec le youtubeur de la sagesse. Voilà. Donc voilà, on va y aller. Alors, Jimmy, comment tu vas aujourd'hui?
Bah écoute, ça va très très bien. Malgré les circonstances, on tient le coup et ça va, on fait aller.
Ok. De toutes les façons, c'est comme on ne dit-on pas que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Exactement, donc ne désespérons pas.
Tout voilà. N'est pas bien. Exactement. Alors, la première question qui me vient directement à l'esprit, c'est: qui est Jimmy, en fait? Pour les gens qui ne te connaissent pas, bien évidemment.
Alors oui, c'est assez étonnant parce que honnêtement, je n'aime pas parler de moi. J'aime bien parler des autres, au contraire. C'est pour ça que je fais aussi YouTube, mais je n'aime pas parler de moi. Mais je me prête au jeu. Alors moi, je m'appelle Jimmy, je suis originaire des Antilles, de la Guadeloupe. Mes deux parents sont de la Guadeloupe, mais moi je ne suis pas né en Guadeloupe, je suis né en France et j'ai vécu toute ma vie en France, toute ma vie en Europe, et puis depuis quelques années j'habite au Canada, en Amérique du Nord, et je travaille dans l'informatique. Voilà, en gros, pour dire en quelques mots qui je suis, ça c'est moi.
Ok, mais qu'est-ce qui, enfin, en qualité de Français, qu'est-ce qui te pousse à aller t'installer au Canada?
En fait, c'est vrai que sur le papier, je suis français, puisque la Guadeloupe est française depuis 1635. Et donc, les Guadeloupéens sont par défaut français, et moi-même né à Paris, donc français. Ça, c'est sur le papier. Mais dans la vie du quotidien, c'est pas tout à fait ça. C'est plus, il y a bon banania, bamboula, retourne en Afrique. Ça, c'est la réalité. Donc, ma foi, et puis de toute façon, compte tenu de notre histoire un peu particulière, c'est pas vraiment la nationalité qui est le plus important, c'est plus le background culturel. Et donc, comme moi, de toute façon, étant né dans un pays qui m'a toujours fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu, bah, faut autant aller ailleurs. Et après avoir vécu dans plusieurs pays européens, et puis un peu fatigué de l'Europe aussi, je me suis dit, bah tiens, je vais m'éloigner de l'Europe, ça va me faire du bien. Et puis, il se trouve que l'opportunité m'a amené en Amérique du Nord pour le moment.
Ok. Donc, ça veut dire, si je comprends bien, même en qualité de Français, ça veut dire que quelque part, tu ne te sentais pas toujours à ta place, c'est ça?
Non seulement ça, mais en plus, on m'avait fait comprendre que ce n'était pas ma place, clairement. Wow. Mon père avant moi, son père avant lui, pareil du côté de ma mère, on nous a toujours fait comprendre que nous n'étions pas, notre place n'est pas forcément les bienvenus. Donc, en fait, c'est ambivalent. C'est-à-dire que les Noirs en France sont français quand ça arrange, pour aller faire le service militaire à l'époque où c'était obligatoire. pour aller voter parce qu'on en veut gagner les élections, pour payer les impôts parce que vous êtes français, il faut payer. Mais dès qu'il s'agit d'avoir un job, vous n'êtes c'est mon boulard. Dès que vous êtes ministre, on vous traite de singe, on vous met des caricatures. Quand vous cherchez un appartement, je loue pas aux nègres. Quand vous cherchez un travail, oui, mais votre coupe de cheveux, c'est pas professionnel. Enfin, voilà. Donc, entre les beaux discours républicains et tout ça, et la réalité, il y a un gap certain. Donc, non, effectivement, on n'a jamais été chez nous. On n'a jamais, on s'est jamais réellement senti chez nous. Peut-être qu'il y a des exceptions, j'en conviens. Mais en tribunal, non, je ne me suis jamais senti français. Je ne suis pas français, moi. J'ai la nationalité française, oui, par le passeport, mais ça s'arrête là.
Waouh. Mais dans une société dans laquelle un enfant est appelé à grandir, comment est-ce qu'on explique ça à un enfant, en fait, qui n'est pas chez lui, en fait? Comment est-ce que les parents arrivent à trouver la tact pour expliquer ça à un enfant, en fait?
C'est là où, justement, c'est très, très compliqué. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance avec mes parents, justement, parce que à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas tout ça, ça n'existait pas. Donc, trouver de l'information et la donner, ça relève pratiquement de l'exploit. Eh bien, il faut faire ce travail très jeune. Expliquer l'histoire de cet enfant le plus jeune. Et je parle vraiment de mon expérience parce que... je vais raconter cette histoire que j'ai peut-être racontée ailleurs, mais je vais la raconter. Tu sais, comme moi, je suis né en France, je vois autour de moi, je vois des Occidentaux. Bon, on ne va pas leur reprocher aux Occidentaux d'être des Occidentaux en Occident. Mais du coup, quand je me lève le matin, je vais à l'école, je suis entouré d'Occidentaux. Dans le métro, des Occidentaux. À la télévision, pareil. Dans les panneaux publicitaires, pareil. Donc, je suis submergé d'images d'Occidentaux autour de moi. Et c'est vrai que ça a provoqué des questions chez moi, en me disant, mais je suis français, mais je ne suis pas comme eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont atteint une maladie? Ils ne sont pas pareils que moi? Évidemment, parce qu'à mes yeux, moi, je suis normal, mais eux, ils ne sont pas comme moi. Et puis, un jour, comme tous les enfants, je fais des dessins, et puis je fais un dessin qui représente ma mère. Et je tends ça à mes parents. Et le dessin, c'est une femme blanche. Et là, mon père me dit, mais est-ce que tu penses que la dame que tu as dessinée ressemble à ta maman? Je bafouille, je ne sais pas. Il dit, mais regarde maman. Et puis ma mère regarde ça, elle dit, oui, mais c'est pas moi, ça. Regarde les cheveux de maman, ils ne sont pas comme ça. Regarde, viens, on va refaire le dessin. Parce que mon père bouillait de rage, mais pas vis-à-vis de moi, parce que je suis un enfant, je ne comprenais pas. Parce qu'il était en train de réaliser que voilà ce que fait l'Occident de mon enfant, il le transforme.
Yeah.
Et donc, c'est comme ça qu'ils m'ont refait faire le dessin. Ils disent, regarde, ça c'est maman, regarde les cheveux de maman, la bouche de maman, c'est comme ça que maman est, donc c'est comme ça que tu dois dessiner maman. Et là, mon père s'est dit, oulala, c'est chaud, c'est dangereux, il faut qu'on réagisse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des recherches. Avec les moyens qu'il avait, il n'y avait pas Internet, il a trouvé une librairie à l'époque, et il m'a tendu un livre pour enfants, qui raconte justement aux enfants la traite négrière, d'où je viens. Et c'est à ce moment-là que je découvre ma véritable identité. Et ce livre a changé ma vie. Et c'est ça que basé sur mon expérience, c'est là où j'invite les parents à faire exactement la même chose. Dès le plus jeune âge, surtout si l'enfant est né en dehors de l'Afrique, il faut absolument qu'il soit habitué à voir des visages africains, qu'il voit des gens comme lui qui lui ressemblent. Parce qu'en Occident, ne demandez pas à l'Occident de faire ça, ce n'est pas leur rôle. Mais c'est votre rôle à vous. Et aujourd'hui, il y a plus de moyens, donc pas d'excuses.
Yeah, tout à fait. Et surtout par rapport au fait qu'il faut saluer le courage et l'abnégation de ton père par rapport au fait qu'il aurait pu simplement laisser ça comme ça et dire que... bon, il va comprendre avec le temps, comme disent certains parents, tu vois. Mais je pense qu'à un moment donné, il s'est clairement révolté dans un sens plutôt positif. Et ça, c'est à féliciter, en fait. Et c'est un exemple. Je pense que peut-être que quand tu auras le temps, ce sera bien de faire une histoire autour de ça sur ta chaîne YouTube.
Oui, justement, j'y pense de plus en plus. Et il faut que je lui en parle. Mais oui, j'aimerais vraiment faire une histoire à ce sujet, effectivement.
Alors, et les Antilles, est-ce qu'il t'arrive parfois de repartir ou bien quels sont les rapports que tu as gardés avec ta terre d'origine, en fait?
Alors oui, j'y suis allé plus d'une fois. Et c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'y suis pas allé, pas parce que ça ne m'intéresse pas, mais c'est vrai que je suis définitivement tourné vers l'Afrique. Mais mes rapports avec les Antilles sont bons, même si évidemment Il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui ne me plaisent pas, évidemment, parce qu'il faut pas, on ne va pas se le cacher. Les Antillais ont eux aussi hérité de la période coloniale. Hein, et on a subi les mêmes choses, hein, le lavage de cerveau, la falsification de l'histoire. Enfin bon, donc il y a encore des traces très présentes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement cette jeunesse antillaise, et les moins jeunes aussi d'ailleurs, qui se conscientisent de plus en plus, qui se réveillent de plus en plus et qui agissent de plus en plus. Donc, on est tenté de croire et de penser qu'il y a aussi de l'espoir dans les Antilles françaises.
Bien, tout à fait. OK. Mais par rapport à la France, quand tu évolues dans la société française, au bout d'un certain temps, dans ton adolescence, est-ce qu'il y a une scène particulière qui t'a fait peut-être un moment donné te sentir que ta couleur noire dérangeait, en fait? Est-ce qu'il y a un déclic qui t'a peut-être quelque part un jour emmené à te sentir comme ça?
Évidemment, la première fois, c'est quand tu reçois les insultes à caractère racial. J'étais adolescent, c'était la première fois qu'on m'insultait très clairement. Mais je n'ai pas eu besoin de l'insulte pour le comprendre, puisque j'ai eu, encore une fois, j'insiste, hein, mes parents ont fait un énorme travail de préparation et de conscientisation. C'est moi, je pense, qui n'a pas toujours été un bon élève, qui n'a pas toujours été à l'écoute, ça il faut le reconnaître. Mais sincèrement, mes parents ont fait un bon job. Donc, évidemment, c'est choquant quand tu te fais insulter, mais j'avais bien conscience que depuis longtemps que je n'étais pas forcément le bienvenu. Et puis, c'est vrai que j'étais adolescent où je me fais littéralement agresser par un individu un peu plus vieux que moi, était plus grand et plus costaud. Et là, j'ai dit, ça ne marche pas. Je suis rentré à la maison. Je ne l'ai jamais dit. Peut-être que si mes parents regardent, ils vont découvrir ça maintenant. Mais je suis rentré à la maison. On habitait dans un pavillon. Je suis allé chercher un bout de bois. Je suis remonté sur mon vélo. Et je suis reparti voir si je recroisais le gars. Je l'ai recroisé. J'ai tabassé le gars jusqu'à ce qu'il reste à terre. Et tant qu'il bouge, je tabasse le gars. Je lui dis, plus jamais tu parleras comme ça à un noir. Plus jamais. Et là, je me suis dit dans ma tête, le combat a commencé. Là, le combat commence. Parce que là, c'est chaud. Et le pire, c'est que quand j'ai eu... Bon, évidemment, cette histoire-là, je ne l'avais jamais racontée à mes parents, j'en ai raconté d'autres. Et un jour, mon père me dit, il m'assoit, il me dit, écoute, tu sais, moi, quand je suis arrivé à Paris, mon père travaillait à la poste. Donc, il vient pour sa première journée, il est reçu par son patron. Mon père me dit, ça m'a marqué. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre ici? Il y a du soleil chez vous. Il y a du soleil et la mer chez vous. Qu'est-ce que vous êtes venu foutre ici? Mon père était un jeune homme. Moi, je n'étais pas encore né. Voilà les premiers mots de l'homme blanc en France. Alors, mon père m'a dit un jour, mais si déjà ça commence comme ça, et à l'époque, on était dans les années... je crois les années 60, donc il y avait du job, il y avait du travail pour tout le monde en France. Hein. Tu pouvais même cumuler plusieurs jobs, tellement il y avait du travail. Pourtant, on était dans une période économique prospère. Voilà le premier message qu'il reçoit. Il se dit, mais alors si ça commence comme ça, comment ça va être plus tard? Comment ça va être si un jour j'ai des enfants? Ben, la réponse est là. C'est chaud.
Normalement, à la base, une fois maintenant, après tout à l'heure, tu disais que après tu t'es orienté dans le domaine de l'informatique, c'est-à-dire on va essayer un peu de peaufiner un peu au niveau de ta carrière professionnelle. Qu'est-ce qui te motive à te lancer dans l'informatique, en fait?
En fait, c'est encore une fois, c'est l'entourage familial. Tu sais, chez nous, comme en Afrique, on est élevé de cette façon-là. Quand les parents sont pas là, souvent, on se retrouve tous en famille, entre les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les plus jeunes et les plus anciens, et on est tous ensemble. Et les cousins les plus âgés s'occupent des plus jeunes. Surtout le week-end, quand les parents sont occupés entre eux, les grands, comme on dit, sont occupés entre eux, et ben, les cousins les plus âgés s'occupent des plus jeunes. Et j'avais un cousin, justement, qui était lui, qui avait acheté un ordinateur et qui s'était lancé là-dedans. Et c'est lui, d'ailleurs, qui m'a fait découvrir l'informatique et les ordinateurs. Et moi, ça me fascinait de savoir que avec une machine, avec un clavier, on était capable de faire toutes ces choses-là. Alors, en plus, si tu mets fantasmé par, il y avait des émissions pour enfants où il y avait un groupe d'enfants qui avait un ordinateur qui vivait plein d'aventures, ça me faisait rêver. Et mon cousin s'était acheté un ordinateur à l'époque. Et il m'a initié à l'informatique. Donc, c'est lui, en fait, qui m'a fait découvrir l'informatique, qui m'a fait aimer ça. Et j'ai toujours pensé qu'un jour, dans mon parcours, je finirais par travailler dans l'informatique. Et puis finalement, ça fait 2 décennies que je travaille dans l'informatique.
Wow, excellent, excellent. Et là, tu es spécialisé dans quoi précisément au niveau de l'informatique?
Aujourd'hui, je suis chef de projet spécialisé dans les infrastructures, donc je dirige surtout des un peu, considère-moi un peu comme un chef de chantier dans la construction.
OK.
Tu vois, chaque métier a son job à faire. Donc moi, je supervise toutes ces équipes, je fais le budget, je motive les gens, je surveille que le travail soit fait en temps et en heure. J'aide aussi quand je peux aider les membres de l'équipe. Donc j'ai plus un rôle de contremaître, entre guillemets. Et je fais le calcul du budget, je dois expliquer pourquoi ça coûte autant et pas autant, etc. Donc je dois rendre des comptes aux directeurs, aux gens assez haut placés dans les différentes compagnies pour lesquelles je travaille.
Cool, excellent. Alors, maintenant, par rapport à cela, comment est-ce que tu découvres YouTube et comment est-ce que naît ta passion de vouloir devenir un YouTubeur?
Alors en fait, c'est encore une fois, je crois que je dois ça à mes parents parce que lorsqu'ils m'ont initié à la lecture, ils m'ont fait découvrir qu'en fait mon histoire, ma culture était littéralement un mensonge. Ils m'ont tendu mon premier livre. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, c'est Toutes les misérines. Ensuite, quand j'ai commencé à grandir, là, mon père me fait lire d'autres livres pour littéralement me préparer psychologiquement. Ensuite, il me tend chez Canta Diop et là, je dis wow. Là, ça a été la gifle intellectuelle. Je fais, oulala, c'est pas possible. Et c'est ça qui a créé chez moi cette envie. Donc, à l'époque, Internet n'existait même pas. Donc, j'avais le livre avec moi et je parlais aux gens, regardez, chez Canta Diop, il a dit ci, il a fait ça. Et je discutais. En fait, ce que j'avais appris en lisant dans les livres, j'essayais de le donner aux autres en disant, ça, là, ce réveil intellectuel, il faut que je le partage aux autres. Et c'est comme ça que c'est né. Et des années après, YouTube arrive. Et des amis me disent, mais écoute, Jimmy, toi, tu adores discuter ce genre de choses, toi qui adores faire partager, pourquoi tu n'utilises pas YouTube? Et je dis, oui, effectivement, c'est une bonne idée. Et encore une fois, je pense que c'est plus par paresse intellectuelle et paresse du cours d'ailleurs que je ne me suis jamais mis à YouTube. Parce que j'étais un peu resté à l'ancienne avec le livre, montrer les livres, lire des extraits de livres pour donner envie aux gens. Et les gens me disaient, mais écoute, tu as l'air d'adorer ce que tu fais, crée une chaîne. Et puis l'idée, le mindset a commencé à changer parce qu'on n'arrêtait pas de m'en parler. Et puis un jour, en allant sur une autre chaîne, des gens me faisaient la remarque. J'étais dans une émission, et puis les gens me disaient mais, en commentaire, mais Jimmy, crée une chaîne, tu as l'air d'être intéressé, tu adores diffuser ça, de partager, crée une chaîne. Et là, je dis, bon, là, ouais, je pense que là, il va falloir en créer une. Et après, ben, voilà, je me suis mis à YouTube, et c'est comme ça que j'ai commencé à créer la chaîne, à essayer de produire du contenu et de partager avec le plus grand nombre.
Yeah, ok. Et c'est là où est né The African Chronicle, right?
Exactement. Alors, pourquoi ce nom? Parce qu'évidemment, je suis un Africain. Et c'était aussi un clin d'œil avec Ray Bradbury, les chroniques martiennes, The Martian Chronicles. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas The African Chronicles? Parce que je veux. Les chroniques, ce sont des histoires courtes, des histoires qui centrées sur l'Afrique. Et pour moi, l'Afrique, ça représente l'Afrique du continent, la diaspora, les afrodescendants. Tout ça, pour moi, c'est l'Afrique. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais appeler cette chaîne comme ça parce que je vais raconter des histoires africaines à des Africains. D'où le titre, The African Chronicles.
Ok, mais en principe, pour quelqu'un qui est né en France, à la base, qu'est-ce qui te fait revenir? Qu'est-ce qui crée cet amour de ton identité? Parce que fort est de constater que c'est pas toujours évident pour les personnes, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans la diaspora, de pouvoir s'intéresser à leurs origines, à leur identité. Qu'est-ce qui te pousse à revenir en fait, par rapport au fait que tu es né chez, on va dire ça techniquement, tu es né chez les Blancs, on va dire ça comme ça, mais voilà, mais qu'est-ce qui te pousse à te dire qu'au-delà du fait que je suis né chez les Blancs, je comprends la nécessité pour moi de revenir à mon histoire et à mes origines?
Les premiers qui m'ont poussé à ça, ce sont mes parents, tout simplement. Vraiment, c'est pour ça que j'insiste dans souvent les émissions dans lesquelles j'ai le plaisir d'intervenir. Je parle d'éducation. Quand je parle d'éducation, ce n'est pas uniquement l'éducation académique, l'éducation scolaire, mais l'éducation parentale. Et si ce n'est pas les deux parents, les géniteurs, ça peut être n'importe qui. Un oncle, une tante, un cousin, une cousine, un mentor. Il faut quelqu'un pour vous montrer ce cheminement-là, vous faire découvrir votre véritable identité. Et c'est ça qui m'a motivé, puisque mes parents m'ont fait découvrir ma véritable identité. Alors, c'est parce que quand tu es toute ta vie, tu penses d'une certaine manière, tu vois le monde d'une certaine manière, et jusqu'au jour où tu découvres tout ça, c'était pas vrai. Soit c'était une partie cachée, soit c'était tronqué, soit c'était falsifié. Enfin, et là, tu découvres la vérité. Et quand tu dis, mais attends, c'est moi ça en fait, et pas ça, voilà. Donc là, tu as envie d'en savoir plus. Tu dis, mais attendez, toutes ces années, on m'a raconté du baratin, mais qui je suis en fait? C'est quoi mon identité culturelle? J'ai besoin de savoir. Et c'est là que mon père me dit, tu veux savoir? Dis oui, ben voilà, c'est dans les livres. Donc tu peux lire ça. Et voilà. Et c'est comme ça que c'est né, parce que si tu veux savoir, il faut aller chercher l'information. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont montré l'information. Ils m'ont dit, tiens, tu devrais lire tel auteur, il connaît bien. Il peut même, cet auteur-là, à la fin de son livre, te référer à d'autres auteurs. Donc ça ne finit jamais. Cette quête-là, c'est une quête positive, parce que tu ne finis jamais d'apprendre, puisque nous savons tous que la culture africaine, c'est immense. Rien que le continent, lui tout seul, c'est une vie de recherche. Alors si tu rajoutes les latinos, les afro-latinos, les nord-américains, les antillais, ben alors là, c'est une vie de recherche. Donc tu ne finis pas d'apprendre. Et c'est ça qui a provoqué chez moi ce désir, parce que plus j'apprends, plus je suis content d'apprendre, mais plus je me rends compte que j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc je n'arrête pas. Donc à chaque fois que je lis un livre, je dis « ouais, j'ai appris des trucs », puis je me rends compte « ah, mais finalement, je n'ai pas appris tant que ça, parce qu'il y en a encore tellement à lire que tu ne finis pas, en fait. » Donc c'est un cercle vertueux, pas vicieux, mais vertueux.
Yeah, tout à fait. C'est bien de le préciser, hein. Ouais. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais en même temps, est-ce que tu penses que c'est souvent quelque chose de facile? Parce que imagine-toi, si tes parents n'avaient pas fait ce travail-là, est-ce que tu penses que, je ne pense même pas, peut-être que tu aurais peut-être pensé à ça, parce qu'il y a d'abord cette motivation-là des parents qui ont été là. Mais parfois, il arrive aussi que ça, c'est la chance que tu as pu avoir. Mais en même temps aussi, ton histoire aussi peut servir d'exemple aussi à des gens qui vont nous regarder aujourd'hui et de comprendre qu'il peut arriver, pourquoi pas, que les parents ne puissent pas forcément avoir le temps. Parce qu'il faut bien le préciser, ton père a vraiment pris du temps pour le, parce qu'il a compris que c'était utile. Oui. Mais à un moment donné, parfois aussi, il y a d'autres parents qui n'ont pas ce temps-là, malheureusement. Et je pense que, et je souhaite que cette vidéo-là serve d'exemple à tous ceux qui sont nés dans la diaspora et qui veulent revenir vers leurs origines, mais qui, ma foi, souvent trouvent parfois des excuses, parce qu'on va dire ça comme ça, que oui, mais mon père ne m'a pas enseigné cela, ma mère ne m'a pas enseigné cela. Chaque personne a son histoire, chaque personne a son parcours. Le plus important, c'est de revenir à l'origine, peu importe le parcours que tu vas prendre. Mmh. Et il faut comprendre ici qu'il n'est jamais trop tard pour revenir, parce que il faut bien comprendre, c'est que toi, ton parcours est louable, parce que, encore une fois, comme je t'avais dit une fois en off, que il y a des gens, quand tu leur parles de leur origine, quand ils sont déjà au Canada, en France, aux États-Unis, mais tu as l'impression qu'on lui parlait d'un village qui n'a rien à voir avec l'Afrique, en fait. Est-ce que tu vois?
Ouais.
Parce que, voilà, il y a ce côté-là du genre, c'est-à-dire, ils s'en moquent éperdument de tout ce qui se passe dans leur pays d'origine, en fait.
Oui, c'est vrai.
Et c'est dommage de comprendre que c'est quand on est face à une situation de racisme qu'on comprend la nécessité de revenir à ce qu'on a perdu.
Pardon de te couper, c'est vrai, mm-hmm. Tu as tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle, pas d'excuse. Tu sais, je ne suis pas là pour blâmer qui que ce soit, mais comprends qu'à l'époque, Internet n'existait pas. Ouais. Les téléphones, tout ça n'existait pas. On ne savait même pas qu'un jour ça existait, déjà. Tu vois, donc voilà où on en est. Mes deux parents travaillaient à plein temps. Et le soir, quand ils rentrent, il faut qu'ils s'occupent de leur enfant, vérifier qu'il fasse ses devoirs, et en plus, se soucier du fait qu'il risque de devenir un petit occidental alors qu'il n'est pas occidental. Donc, il faut qu'on l'éduque, en lui donner une éducation supplémentaire avec peu de moyens. Moi, ma chance, c'est que mon père a trouvé, il a cherché, hein. Parce que c'était devenu une obsession. Il a dit, si je ne fais rien en tant que père, je risque de perdre mon enfant et puis je ne sais pas ce qu'il va devenir plus tard. Donc, il a fait ce qu'il a pu. Il a cherché et il a trouvé. D'ailleurs, en plus, pour la petite anecdote, je me rappelle que, parce que c'est le seul livre, mais ce livre-là m'a changé ma vie et m'a fait découvrir mon identité, m'a fait comprendre certaines choses. Parce que, à l'école, j'avais un copain, Hassan. Il était soit du Mali ou du Sénégal, je ne me rappelle plus. C'était devenu un super copain. Pourquoi? Parce que c'est un nouveau qui arrive, il est comme moi. Je vois un autre noir comme moi, donc forcément, il est comme moi, donc le qui se ressemble s'assemble. Et les autres copains qui étaient tous blancs, ils disent, ouais, mais pourquoi tu parles à lui? Ben, j'ai dit, c'est mon copain. Oui, mais il n'est pas comme nous. Je regarde Hassan, je me regarde, mais pourtant il me ressemble pas mal. Non, mais lui, il n'est pas comme toi. J'ai dit, ah, quand même, si, quand même pas mal. Hein. Il dit, non, mais lui, il vient d'Afrique. Et là, je me dis, oh là là, c'est quoi ces histoires d'Afrique? Je ne comprends pas. Afrique, pas Afrique, mais il est comme moi pourtant. Et c'est lorsque mon père m'a tendu ce livre, et là, j'ai tout compris. Je dis, ah, mais attends. Nos ancêtres sont des Africains? Il me dit, oui. Alors, je lui dis, mais comme mon copain Hassan? Il me dit, voilà. Je dis, mais donc, je suis Africain aussi, alors? Il me dit, oui. Ah, et là, claque, ça commence à gamberger là-dedans. Donc, oui, quand vous êtes parent, désolé, c'est un travail à temps plein. Vous mettez au monde des enfants, il faut vous attendre à ça, surtout quand vous êtes en Occident. L'Occident ne va pas éduquer votre enfant pour vous, ce n'est pas son job. Quand je parle d'éducation, je parle de votre identité culturelle, le background culturel, hein, parce qu'il y a les écoles partout, mais c'est pas le rôle de l'école française d'apprendre à votre enfant qu'il est africain, ce n'est pas son problème. C'est à vous, en tant qu'Africain, d'apprendre ça à vos enfants. Si vous ne le faites pas, qui va le faire? C'est l'école française qui va éduquer votre enfant, ouais, ça peut donner ce que ça peut donner. Donc je ne suis pas là pour blâmer les parents, mais à partir du moment, comprenez que lorsque vous quittez le pays d'origine, pour quelque raison qu'il soit, et vous arrivez en Occident, et l'enfant naît en Occident, c'est mon cas, attention, le combat va être compliqué. Là. Ça va être, les choses vont être plus difficiles. Théoriquement, maintenant, au moment où on se parle, ça ne devrait plus tellement. Et pourquoi? Parce que nous avons accès, grâce à ce petit objet-là, rien que ça, hein, on a accès à plein d'informations, Internet. Internet a changé la donne. Donc, on n'a plus d'excuses. Les informations existent concernant notre culture et notre identité. Il ne faut pas que notre enfant soit étranger à ça, surtout s'il naît en Occident.
Tout à fait. Je suis bien d'accord. Tout à fait. Maintenant, on arrive souvent à un niveau là où, au-delà du fait même que l'information est accessible à tout le monde, mais comment se fait-il toujours que, même quand l'information est accessible à tout le monde, il y a des gens qui te diront toujours, mais oui, si je me comporte d'une certaine façon, c'est parce que je n'ai pas l'information. Comment est-ce qu'on peut réagir avec ce genre de personnes? Parce que tu sais, les gens vont toujours te dire, oui, mais si je suis au niveau là où je suis, au niveau là où je suis, c'est parce que je n'ai pas accès à l'information. Mais alors que tu veux nous montrer un téléphone portable là où, une fois que tu as une connexion Internet, tout ce que tu veux savoir, tu l'as en moins de 5 minutes. Mais qu'est-ce qui justifie que dans la communauté noire, on connaît toujours des gens qui sont toujours au niveau d'une information aussi diminuée?
En fait, bon, il y a le fait historique, vous savez, hein, quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique, on est venu d'abord avec des Bibles pour nous diviser, pour nous laver le cerveau, et ensuite les fusils et les fouets sont arrivés juste après, là pour nous soumettre physiquement. Mais ce n'était pas fini. On nous a appris, c'est pour ça que j'en parle dans une de mes vidéos, la lettre de Willie Lynch, on nous a appris à se méfier entre nous, à se faire la compétition entre nous. Et ça dure depuis 500 ans. Parce que malheureusement, nous reproduisons encore ces schémas de pensée. On continue, au moment où on se parle, ça existe encore. La preuve, on parle encore au 21e siècle de colorisme. C'est-à-dire, en fonction de ton teint, si tu es foncé ou pas foncé, ben, tu reçois ou pas certains privilèges. Et nous pratiquons ça entre nous. Nous sommes au 21e siècle, ça existe. Et ça remonte depuis le temps de la traite négrière, ce que je te dis. Donc, tu vois, c'est vieux. Et on continue encore de le reproduire. Ensuite, il y a le système éducatif, où on nous apprend tout, sauf ce que nous sommes. On nous dit, et puis il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, hein, on nous fait comprendre que nous, les Noirs, notre place, elle est au bas de l'échelle, littéralement, et on doit l'accepter comme telle. On nous éduque comme ça dans le système éducatif. Bien. Donc quand tu mets tout ça bout à bout, plus le manque d'informations dans la famille, plus, ça crée le contexte pour créer ce genre de comportement. Et le pire dans l'histoire, j'ai découvert des choses, c'est que beaucoup d'informations nous concernant, au final, ne sont même pas cachées. Parce qu'ils ont compris que de toute façon, les Noirs n'iront pas regarder. On a fait le boulot, on les a bien lavé l'esprit, ils n'iront pas regarder. J'ai un exemple en tête, à la Bibliothèque nationale de Paris, qui a été construite du temps de Mitterrand, dans les années 80, je crois, tu as énormément d'informations sur l'histoire africaine. Et c'est gratuit. Tu vas dans la bibliothèque, c'est gratuit. Tu peux consulter le document sur place, c'est gratuit. Personne n'y va. Dans les rues en Allemagne, j'ai découvert ça au hasard, dans les rues d'Allemagne, tu as des statues d'hommes noirs. Je dis, mais qu'est-ce que ça fait là, ça? Je regarde la statue, mais d'où vient cette statue? Ça sert à quoi? Qui a mis ça là? En fait, tu découvres que dans l'histoire européenne, les Africains, qu'on appelle les Maures, M-A-U-R-E-S, wow, avaient envahi l'Europe, avaient même, comment dirais-je, régné en Europe en tant que roi, reine, des personnalités haut placées. Mm-hmm. Il y a même un musée en Italie, un musée, donc ouvert à tout le monde, qui l'explique. Tu vois, ils cachent même pas l'information. Les gars, ils ont compris que de toute façon, on a tellement bien réussi à diviser les Noirs entre eux, à les faire se détester entre eux. On n'a même pas besoin de cacher l'information. Il y a des musées un peu partout. Il suffit d'y aller, tu vas voir, mais personne n'y va. Et donc, pareil pour le téléphone, pour répondre à ta question. Pourquoi cacher on n'a plus besoin de cacher l'information. Tu n'iras pas regarder. Tu vas dire, oh, mais j'ai pas l'info. Mais tu vas la chercher au moins. Parce que ton mindset, il n'y a rien qui a changé ton mindset. Et c'est pour ça que je parle encore une fois d'éducation, c'est parce que mes parents ont fait ce job pour changer mon mindset, pour provoquer cette curiosité, pour que j'aille chercher l'information. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils connaissent pas toute l'histoire de l'Afrique et toute la culture africaine non plus. Eux aussi, ils ont fait ce qu'ils ont pu, comme ils ont pu. Au bout d'un moment, mais c'est à moi de continuer le travail. C'est pour ça qu'ils ont fait ce travail justement de changement de mindset, d'éducation. Jimmy, voilà, il y a plein d'informations, il faut que tu ailles aussi la chercher. Tu vois, et c'est ce que j'invite à tout le monde à faire. Ne dites pas, j'ai pas l'info, c'est pas vrai. Cherchez-la. Est-ce que vous allez chercher? Parce que comment ça fait que moi je trouve, je suis pas plus malin que vous, moi je trouve, et comment ça vous trouvez pas? Exact. Mettez plus d'efforts dans la recherche. Voilà, tout simplement.
Exact. Et aussi, je tiens à stipuler le fait que tu as aussi un côté très prononcé du kémitisme.
Oui, oui, effectivement.
Tout à fait, je vois. Ouais. Je vois est-ce que tu peux un peu nous en parler? Déjà, oui, pour commencer, c'est quoi être un kémite? C'est quoi le... D'abord, c'est quoi le kémitisme et c'est quoi... Qu'est-ce que veut dire être un kémite?
Alors, tu vois, ça, ce n'est que ma définition, évidemment, parce que je suis sûr que d'autres kémites vont dire ce que dit Jimmy est complètement faux et idiot. Mais pour moi, le kémitisme, c'est un retour aux sources, à sa source africaine. Et c'est pas uniquement se concentrer sur l'Égypte comme on peut le croire, mais il est important de comprendre l'Égypte ancienne parce que tu verras qu'il y a énormément de ramifications entre l'Égypte ancienne et tout le reste de l'Afrique. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse tellement à l'Égypte antique, parce qu'on comprend que ceux qui étudient l'Égypte antique à fond comprennent que c'est presque la source. Et cette source-là découle de plein de peuples, des autres peuples africains. Et d'ailleurs, mon invité de dimanche, dont je ne tairai le nom pour l'instant, je le dévoilerai plus tard, mon invité de dimanche va nous expliquer ça justement. Donc pour moi, le kémite, c'est quelqu'un qui fait un retour. Alors c'est pas, quand je dis retour aux sources, c'est pas on va se mettre à voyager dans des chars à chevaux. C'est pas ça. Le kémitisme, pour moi, c'est le retour à ses racines africaines. Purement et simplement. Son histoire, sa philosophie, sa culture. Et la culture, ça relève quoi? De la musique, la danse, la philosophie, les sciences, c'est tout ça. C'est ça le kémitisme. Donc après, on peut se perdre dans les mots, on peut dire, oh, je suis kémite, pas grave, mais dès que tu fais ce travail de retour à tes propres racines et tes sources, on peut considérer que c'est du kémitisme. Et pourquoi je porte le hank? Le hank, c'est un des symboles, parce qu'il y a plein de symboles africains, mais c'est celui qui me plaît le plus. C'est le symbole de la vie, je dirais même plus de la vie éternelle. Symboliquement parlant, lorsque le soleil se couche, c'est qu'il rentre en conflit avec son frère Seth. Il rentre en guerre et il se fait tuer par Seth et il tombe dans l'outre-monde. Donc le soleil part. Et le matin, quand le soleil remonte au ciel, c'est que justement le soleil vint pendant la nuit, il arrive à battre son frère Seth. C'est lui qui tue Seth et il renaît d'une certaine manière. Donc, la vie éternelle. Ça, c'est la symbolique de la vie éternelle. Quand vous mangez, par exemple, un fruit, vous prenez un fruit, vous le mangez, il n'y a plus de fruit, vous l'avez consommé. Vous plantez la graine, vous arrosez la graine, l'arbre finit par pousser, qui redonne encore des fruits. Donc, vous faites un nouveau cycle de vie. D'où l'intérêt de la vie éternelle. Donc, c'est un symbole très puissant parce que la vie, chez les Africains, est un bien extrêmement précieux. C'est pour ça que chez les Africains, la notion de famille est extrêmement importante. Parce que la famille permet d'engendrer les enfants qui sont le patrimoine culturel et génétique que nous transmettons. Donc la vie chez nous est quelque chose d'important. C'est la raison pour laquelle je porte tout le temps avec moi ce symbole qui soit autour du cou ou sous forme de bague. C'est un symbole très puissant et très important pour moi.
D'accord. Déjà, oui, pour rester dans le côté du kémétisme, est-ce que, donc ça veut dire que la réincarnation, c'est quelque chose qu'on croit faire au moins dans le kémétisme, c'est ça?
Oui, les Égyptiens, de l'Antiquité, les Kémites de l'Antiquité croyaient effectivement à la vie après la mort. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce concept a été copié, plagié dans la Bible actuelle. C'est quasiment mot pour mot.
Waouh.
Ah oui.
Tu vas frustrer beaucoup de gens dans l'audience, là.
J'en ai peur. Mais ici, en fait, ici, vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Et surtout, d'ailleurs, je vous demande, ne me croyez pas. Faites la vérification. Lisez la Bible. Lisez le livre des morts des pharaons. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chercheurs, toutes confessions confondues, vous disent, c'est le document religieux le plus ancien de l'histoire de l'humanité. On retrouve tout. La création de l'homme, la circoncision, le baptême, la crucifixion, la mort, la résurrection au bout de 3 jours, les apôtres, etc. Et j'en passe et j'en passe. Tout est là. Tout y est. Ouais. Donc, allez-y, regardez. Et puis, faites-vous votre propre idée.
Ouais. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai du mal quand même à comprendre avec tous ceux qui sont vraiment adeptes du kémitisme. C'est le fait que j'ai l'impression que beaucoup d'entre eux, en fait, sont restés toujours dans l'Égypte antique. C'est-à-dire, quand tu parles de quelque chose qui n'est pas souvent très en rapport avec l'Égypte antique, parce que tu as commencé à parler du kémitisme, ils veulent que tu restes dans ce cocon-là, en fait. Et moi, je me dis, et encore là, on va prendre l'exemple avec la photo que tu avais postée sur ton Instagram. Est-ce que tu peux nous parler un peu brièvement de cette photo, en fait, qui t'a quelque part un peu choqué? C'est-à-dire, toi, tu avais posté un livre dans le sens là où tu voulais éduquer la masse, mais malheureusement, il y a quelqu'un qui n'a pas compris le message. Est-ce que tu peux nous parler de ça?
Ah oui, c'est une photo où je poste un livre. Mm-hmm. Et quelqu'un me dit, il me dit en gros, ah oui, tu portes des vêtements africains, tu es un vrai kémite. Donc, je ne pensais pas qu'être un vrai kémite, ça dépendait de la tenue vestimentaire. Alors, j'ai répondu en gros à la personne, moi, je te montre les étoiles et toi, tu te restes concentré sur le doigt pointé. Quel dommage. J'ai pas compris. Est-ce que le fait que si je m'habille dans un t-shirt et je mets un jean, ah ben là, je suis plus kémite. Non, ouais. Je pense qu'il faut toute proportion garder. Ce qui compte, c'est le système de pensée. Vous savez, les Asiatiques, les Chinois, voilà, je cible vraiment les Chinois. Vous allez en Chine, je vous invite à aller en Chine, regardez les Chinois qui sont en Occident, ils sont habillés comment? Vous pensez qu'ils ont tous des tenues traditionnelles chinoises? Non, ils portent ces tenues traditionnelles dans des moments, dans des fêtes spécifiques à leur tradition. Ils s'habillent comme des Occidentaux, comme tout le monde. Est-ce que ça fait d'eux moins chinois que le chinois? Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'ils font pour leur communauté? Comment ils éduquent leurs enfants? C'est ça qui compte. Les vêtements, après, c'est superficiel. Donc c'est ça mon point. Vous savez, c'est pas parce que vous êtes kémite, c'est pas un dogme. Ce qui compte, c'est le retour à la connaissance de vous-même. C'est comme ça que je construis le kémitisme. Que ça vous plaise de porter des jeans ou des dashikis, si vous voulez. Ce qui compte, c'est le retour aux sources, connaître votre propre culture, vous connaître vous-même d'une certaine manière, connaître votre identité culturelle. C'est ça le plus important. Et après, ou en même temps, en parallèle, développer une économie communautaire. Si vous avez autour de vous des professionnels qui vendent des produits, achetez chez eux. De préférence. S'il n'y a pas, ben il n'y a pas. Il faut produire. C'est bien de dire il faut acheter black. Et il faut le faire. Encore faut-il produire black.
Exact.
Voilà, je peux prendre mon exemple. Hein. Si je veux consommer black, il faut que j'aille traverser toute la ville de là où j'habite. Sinon, il n'y a pas. Je ne peux pas faire ça tout le temps. Voilà. Donc, il faut faire attention à rentrer dans une espèce de dogme et de, je dirais pas paranoïa, mais une espèce d'extrémisme. Hein, comme le disait un auteur connu, la parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété.
Wow. Wow. Tout à fait vrai, tout à fait vrai. Mais non, ce qui se passe aussi, c'est que au bout d'un certain temps, c'est bien que tu stipules ça parce que j'ai comme l'impression que ceux qui sont adeptes à ce genre de choses-là, souvent ne comprennent pas qu'au bout d'un certain temps, il faut vivre avec son temps, mais tout en gardant ses valeurs. Parce que c'est ça le plus important, vivre avec son temps, mais accepter ses valeurs. Maintenant, toi qui es, on va dire ça comme ça, souvent déjà habitué aux sujets qui sont en rapport avec la communauté noire, d'après toi, qu'est-ce qui peut pousser le fait que, au bout d'un certain temps, nous les Noirs, on est toujours en train de dire justement qu'il faut consommer noir. Mais en termes de consommation, on est en train de parler de consommation, mais on ne produit pas assez. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce paradoxe-là de ton point de vue, en fait?
Effectivement, tu sais, alors il faut se tourner un peu vers les États-Unis. Non pas parce que je suis un adepte farouche de ce pays, mais il a l'avantage de laisser beaucoup de traces écrites, de statistiques, de chiffres et de données que nous pouvons ensuite analyser. Vous remontez quelques années, décennies, voire en arrière, vous aviez le Black Wall Street, que tout le monde connaît, c'est-à-dire l'un des quartiers noirs les plus riches. Et pourtant, nous étions dans les années 20, si ma mémoire est bonne, dans l'un des pires moments de l'histoire des États-Unis. C'est-à-dire après l'esclavage, c'était ça. C'est-à-dire les lois racistes et racialistes et ségrégationnistes, les lois Jim Crow et j'en passe. En tant que noir, tu ne peux pas aller là parce que c'est un quartier de blanc. Donc, on est séparés. Donc, vivre dans cette condition-là, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, les Sud-Africains ont connu ça encore plus longtemps que les Américains, avec l'apartheid. Eh bien, les Noirs ont réagi. Puisqu'on ne peut pas aller dans les quartiers blancs, on va rester dans nos quartiers, donc on va tout créer. Nous allons créer notre propre économie. L'économie dans l'économie. Donc, les Noirs ont tout créé, c'est-à-dire des écoles, des infrastructures, des transports en commun, des taxis, des cinémas, des hôpitaux. Voilà, ils ont créé une économie dans l'économie. Puis comme ça, puisqu'on ne veut pas de nous chez eux, on va faire tout entre nous, chez nous. Et jaloux de ça, s'apercevant que les Noirs finalement s'autosuffisaient, n'avaient plus besoin d'aller consommer chez les Blancs, les Blancs étaient jaloux, ils ont dynamité Black Wall Street, ils ont tué les gens. Les survivants, on les a mis dans des camps de concentration. Ça, c'était 20 ans avant les camps de concentration nazis. On parle beaucoup de les Juifs ont subi les camps de concentration. Les Noirs ont subi ça 20 ans avant. Et ensuite est arrivée toute une campagne, encore une fois, je dirais même de la propagande, de désinformation. Je vous invite à regarder, je pense qu'on peut trouver ce magazine, ce documentaire sur YouTube maintenant, daté des années 50, qui s'appelle How to Sell to a Negro. Comment vendre à un nègre? Et c'est là que le processus a commencé, nous dire non, mais achetez chez nous, achetez. Pas besoin de produire, puisqu'on a tout, on a déjà tout. Achetez. Donc je vous invite, je crois que c'est le bon titre, un documentaire qui explique les stratégies mises au point, pour vendre aux Noirs et les inciter surtout à consommer au lieu de produire eux-mêmes. La grande erreur de mon point de vue, d'un point de vue historique, mais ça c'est mon avis personnel, que nous avons commis, nous nous sommes battus tellement pour avoir le droit d'être intégrés, de vivre là où on voulait, et c'est louable, c'est-à-dire le coût du bus, par exemple, quand on nous disait « allez vous asseoir au fond du bus », on a tellement eu envie, on s'est tellement battu pour avoir le droit de circuler là où nous voulions, on a oublié le fait de continuer à produire notre propre richesse. Ce qui fait que, regarde, jamais dans l'histoire des États-Unis, les Noirs n'avaient été aussi prospères dans le pire moment de l'histoire des États-Unis. C'est quand même paradoxal.
Ouais, je viens de trouver ça. C'est là. Je viens de regarder ça tout à l'heure. Tout à fait. Okay.
Donc, tu verras que même aujourd'hui, pourtant, il y a des milliardaires, mais ils représentent 1% de 1%. Jamais les États-Unis, en tout cas l'Amérique noire, n'a été aussi prospère que dans les années 20. Parce qu'il y a encore eu cette construction mentale qui a été mise en place, qui a été planifiée, qui a eu avec beaucoup de patience, de stratégie pour nous apprendre, nous désapprendre ce que nous aurions dû apprendre et nous faire apprendre ce qu'on n'en a pas besoin. Et ça donne ça aujourd'hui. On veut paraître riche avant d'être riche. Et on le retrouve encore dans notre communauté, que ce soit aux Antilles, en Amérique du Nord, partout dans le monde, on le retrouve encore. Il faut paraître riche, alors que vous ne l'êtes pas.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais à un moment donné, moi je me dis quand même que peut-être que nous les Africains, quelque part, on a peut-être raté notre rendez-vous avec l'histoire. Regarde, je te prends un exemple simple. On va rester dans le contexte des États-Unis. À l'époque de la ségrégation, quand les Noirs ont décidé de ne plus monter dans les bus, est-ce que tu vois, et que ça fait chuter le marché du transport aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas, à ce temps-là, au lieu de simplement, parce que moi j'ai comme l'impression que nous, dans la communauté, on est plus dans le boycott. Est-ce que tu vois? On est champion dans le boycott que de rétorquer avec des actes plus profonds. Est-ce que tu vois? Parce que, au lieu de boycotter le fait qu'on ne monte pas dans les bus, on aurait pu, pourquoi pas, chercher déjà à collecter nos ingénieurs, nos mécaniciens, à voir comment est-ce qu'on aurait pu commencer à créer nous-mêmes nos moyens de transport. Est-ce que tu vois?
Oui,
C'est ça.
oui.
Vas-y, vas-y.
Non, mais c'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'on a beaucoup lutté pour avoir le droit de circuler là où on voulait aux États-Unis, et puis on a délaissé complètement le fait, mais au fait, créons nos propres structures, comme on l'avait fait dans les années 20. Donc je crois que c'est là aussi, de mon point de vue, le petit raté concernant l'entrée dans l'histoire dont tu parlais, c'est ça. Martin Luther King, je l'apprécie, mais bon. Son rêve, je ne le partage pas tout à fait, tout à fait, tout à fait. Hein, parce que oui, on s'est battu pour avoir le droit de manger dans les mêmes restaurants que les Blancs. Oui, ok, oui, encore une fois, c'est légitime. Hein, mais c'est bien d'avoir nos propres restaurants aussi. L'un n'empêche pas l'autre, parce que les autres communautés le font. Les corner stores, comme on dit aux États-Unis, c'est les étrangers qui détiennent ça, ce n'est pas les Noirs. Hein. Pourtant, c'est les Noirs qui habitent là, mais c'est les autres qui détiennent. Je crois qu'on a raté un coche à ce moment-là, c'était justement de reconstruire Back Wall Street à l'échelle nationale aux États-Unis. Oui.
Tout à fait. Et même là, pour la petite histoire, je parlais, l'interview que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec un noir américain, il me disait ça aussi, en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est là où je réalisais que les noirs, peu importe dans la surface, dans la terre dans laquelle ils se trouvent, peu importe la situation géographique dans laquelle le noir se trouve, on a tous les mêmes problèmes, en fait.
Oui, parce que
C'est-à-dire.
la même méthode est utilisée partout, hein.
Ouais.
Regarde, quand les Occidentaux sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont fait quoi? Ils ont tué, exterminé les Amérindiens qui étaient là, enfin les Premières Nations. Ils sont là, en Amérique du Sud, pareil, en Australie, pareil. Partout, ils sont allés. Il n'y a qu'en Afrique, ils n'ont pas réussi, trop nombreux. Bon, voilà. Donc, ils nous ont divisés. La conférence de Berlin, ils ont montré les uns contre les autres. Ils ont exacerbé le tribalisme qui existait déjà. Et puis, ils ont exacerbé ça pour. Qu'on continue à se battre entre nous, et pendant qu'on se bat entre nous, ben, ils récoltent nos ressources naturelles. Donc, ils ont appliqué vraiment les mêmes méthodes quasiment partout.
C'est bien dommage. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui dit, et on veut toujours que les Noirs soient universalistes et non communautaires.
C'est exactement ça, on participe. Tu vois, quand je vous dis que il faut bien comprendre que la stratégie occidentale est très ancienne. Ce que vient de dire Younes, il n'y a rien de nouveau. Hein. Là, les mots ont changé, ils s'adaptent à notre situation actuelle. La stratégie est vieille comme tout, divisée pour mieux régner. Ce n'est pas nouveau, c'est très vieux. Vous voyez, il faut être universaliste. Non, les Noirs n'ont pas besoin d'être universalistes. Tout le monde est communautaire, ça ne choque personne. Parce qu'ils ont compris le danger si nous devenons communautaires. Ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils veulent absolument que nous soyons universalistes. Ça, ils ont compris que les Noirs unis, oulala. Comment on va faire?
Et laisse-moi te dire, tu sais, une fois, j'étais dans un business avec un noir américain, un ami de longue date déjà. Le truc, c'est qu'il sait que j'ai une société de nettoyage. Est-ce que tu vois? Il est dans la peinture. Le truc, c'est qu'une fois, on discutait, on prenait un café. Je lui ai dit, écoute, tu sais, moi, ce que je veux, c'est que, par rapport à mon business, je cherche à trouver plusieurs clients. Mais le truc, c'est qu'est-ce que tu sais que toi et moi, on peut travailler en partenariat dans le sens là où, quand toi, tu trouves une maison là où toi, tu peux faire la peinture, est-ce que tu vois? La peinture et le nettoyage, ça va ensemble. Est-ce que tu vois?
Absolument.
Et le truc, c'est que à chaque fois que toi, tu m'amènes un client, moi, je te donne un pourcentage. Est-ce que tu vois? Le truc, c'est que le noir américain, regarde ce qu'il va me dire. Hein, et c'est là où j'ai compris que il me dit, tu sais, Warren, c'est intéressant ce que tu me dis, mais la vérité est bonne à dire, je ne sais même pas pourquoi je ne t'aide pas. Est-ce que tu vois un peu?
Au moins, il a été honnête, hein, il sait même pas.
Ouais, tu vois, c'est-à-dire, il y a ce côté-là où, du genre, comme tu dis, on est vraiment programmé à ne pas se tendre la perche, quoi. Est-ce que tu vois? Il sait qu'il y a le besoin, il sait qu'il peut faire en sorte que quelque part, à un moment donné, on peut s'entendre pour aller plus loin. Est-ce que tu vois? Mais il me dit carrément, mais en fait, je ne sais même pas pourquoi je ne t'aide pas, en fait. Mais alors que la situation aurait été inverse, un Asiatique ou un Juif aurait pu avoir ce marché-là. Mais aujourd'hui, je pense que on ne devait même plus parler comme on est en train de parler là. Est-ce que tu vois?
Et non, encore une fois, tant qu'il n'y a pas justement cette éducation dont je parle pour contribuer à changer l'état d'esprit, le mindset, si tu préfères en anglais, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Seuls les gens qui ont le mindset vont pouvoir changer les choses. Et quand le changement va opérer par ceux qui agissent, les autres vont regarder, vont dire, oula, peut-être qu'il serait temps de monter dans le train. Vite, parce que quand le train est parti, il est parti. C'est trop tard.
Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage.
C'est pour ça que j'insiste, hein, dès le plus jeune âge. Quand je parle d'éducation, ce n'est pas que l'école ou lire des livres. C'est instiguer cette mentalité-là de travailler ensemble, d'être entre nous. L'entre-soi. Alors, l'entre-soi positif, si tu me permets cette expression. C'est-à-dire que nous consommons ce que nous produisons ce que nous consommons. C'est exactement les paroles de Thomas Sankara. Voilà, voilà ce qu'il nous disait. Et c'est ça. Mais ça, il faut que là-dedans, ça change. Donc, il faut s'habituer dès le plus jeune âge à voir comme ça, exactement comme tu l'as dit, font les autres communautés. C'est ce qu'elles font, hein. Tu sais, elles ne sont pas plus intelligentes que nous, mais elles mettent en pratique, tout simplement.
Et il faut, si on veut que ça change, et c'est la raison pour laquelle on crée ce genre d'émission, hein, tu vois,
Exactement.
pour justement faire en sorte que, parce que le but ici, c'est de faire en sorte, quand j'invite Jimmy pour une interview, comme s'il nous parle de son parcours, et puis après on partage des expériences, c'est pour justement pour que les gens qui ont la possibilité d'écouter ce genre d'émission-là, vous aussi, à un moment donné, vous pouvez avoir l'occasion d'être dans ce genre de position-là. Mais justement, pour avoir été exposé à ce genre de mindset-là, ça peut faire en sorte que la prochaine fois, il y a des opportunités que vous pouvez faire obtenir à votre communauté, en fait. Est-ce que tu vois? Parce que c'est comme on dit aujourd'hui, on ne peut plus dire que le manque d'information est l'excuse pour laquelle je suis toujours mauvais envers mon frère noir.
Et non, là, tu as tout à fait raison. Il y a plus de un, il n'y a plus d'excuses. Et de deux, effectivement, comme tu l'as dit, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne, The African Chronicle. C'est qu'au bout d'un moment, bon, il faut parler, il faut mettre en place des stratégies, mais après, il faut les appliquer. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand je peux présenter un entrepreneur, je présente un entrepreneur qui fait des choses, qui vend des produits ou des services, je le fais connaître. Et le but à la fin, c'est que aller consommer chez lui. L'argent que vous dépensez chez lui, ça va l'enrichir lui. Au lieu d'enrichir tout le temps les autres, enrichissez quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un comme vous. Quand j'avais présenté le réseau social Kouman, j'ai dit voilà, parce que nous avons contribué à rendre Mark Zuckerberg un milliardaire, et sans même le savoir. Tout ce qu'on a eu à faire, c'est créer un compte chez lui et publier nos affaires chez lui. On a rendu Mark Zuckerberg milliardaire. Donc, faisons la même chose. Et là, on l'a fait sans s'en rendre compte. Maintenant, vous savez. Et vous avez un Africain qui a mis en place un réseau social. Ben faites la même chose.
Exact,
Tout
exact.
simplement, inscrivez-vous chez lui, publiez. Là, on a YouTube, c'est une plateforme. Nous avons tous rendu les propriétaires de YouTube riches. Tout ce qu'on
Exact.
avait à faire, c'est s'abonner, mettre du contenu, et puis merci, bonsoir. Eh bien, tu as un monsieur qui a créé AfriTube avec un S. C'est un YouTube africain. Voilà, ben, dis, ben, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, pareil, on s'abonne chez lui. On met du contenu pour faire gonfler sa plateforme et puis il va devenir riche. En tout cas, je lui souhaite. Donc, à un moment donné, il faut mettre en pratique ce qu'on dit. Le but, quand je présente tous ces gens-là, c'est qu'on aille consommer chez eux. Ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. C'est que la richesse reste entre nous. Moi, en tant que noir, je vais consommer chez un noir qui va devenir riche, qui va investir son argent pour sa compagnie ou une autre compagnie noire, qui va mettre son argent dans une banque noire. Cette banque noire va prêter son argent à d'autres noirs et ainsi de suite. L'argent reste chez nous. Exactement comme font les autres communautés, en fait. Moi, j'invente rien, j'ai rien découvert, hein. Il suffit de regarder autour de nous. Les autres communautés font exactement la même chose, sauf nous. On est là, ah, fais-moi un prix, fais-moi un prix. Mais quand vous
Exact.
allez à Walmart ou je ne sais pas où, là, Vous demandez, vous dites pas fais-moi un prix. Mais dès que c'est un or, fais-moi un prix. Non, achète au prix qu'il vend, c'est son travail.
Exact, exact. Les amis, si vous avez des questions pour Jimmy, n'hésitez pas. Hein. Je vois qu'on est quand même assez nombreux, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il va pourquoi pas vous faire partager aussi sa sagesse. Donc, n'hésitez pas, les amis, n'hésitez pas. Alors, Jimmy, en préparant cette émission, je suis également allé me balader dans ton compte Instagram et j'ai vu une posture de toi là où tu étais comme un samouraï, en fait. Je sais pas, c'est-à-dire tu avais une position martiale. Est-ce que tu es un adepte des arts martiaux?
Oui, effectivement, depuis enfant, j'ai toujours aimé les arts martiaux. J'ai longtemps pratiqué moi-même les arts martiaux, un peu moins le temps malheureusement avec mes activités professionnelles et en plus le confinement a vraiment chamboulé tout ça. Mm-hmm. Mais oui, j'adore les arts martiaux, j'ai toujours aimé les arts martiaux. La pratique martiale est une pratique qui est physique et aussi mentale. Donc, pour résumer d'une phrase, les arts martiaux, ça aide à raffermir le corps et aiguiser l'esprit. Parce que c'est plus qu'un système de combat, c'est un système de pensée.
Exact, exact, exact. Je suis totalement d'accord avec toi parce que moi-même, pratiquement, tu fais quel art précisément, en fait?
Alors, l'art que j'ai le plus pratiqué, c'était le Kung Fu Wushu.
Ah, ok.
J'ai touché un peu à tout, j'ai touché à d'autres arts martiaux comme le karaté Ushiryu, c'est-à-dire qui vient d'Okinawa. J'ai pratiqué la boxe thaïlandaise, mm-hmm. un peu le Kung Fu, la boxe anglaise aussi, mais c'est vrai que mon truc, c'est le Kung Fu.
Ah, ok. Ben écoute, c'est très bien, j'ai reconnu. Voilà pourquoi j'ai reconnu certaines positions là. J'ai reconnu certaines positions, voilà. C'est très bien. Moi-même aussi, à la base, j'aime bien ça aussi. Parce que tu sais, Malcolm X dit quelque chose, c'est que dans ce monde, si tu veux avoir la liberté, si tu veux que les autres te respectent, il y a trois choses que tu dois pratiquer. Il y a le karaté, il y a le self-défense, et il y a le taekwondo, parce qu'il parle du principe qu'à un moment donné, même la liberté qu'on cherche, est-ce que tu vois, il y a des gens qui ne vont pas vouloir nous la donner, en fait.
Et non.
Et parfois, il faudra la prendre par la force.
Oui. On se souvient des Black Panthers.
Hein? Yep.
L'autodétermination, c'est-à-dire que quand on demande poliment arrêter de nous tirer dessus et de nous tuer pour un oui pour un non, la réponse qu'on leur dit, c'est oui, mais. Bon, ben, Black Panthers, c'est-à-dire on va s'armer, puis vous nous agressez, on riposte. Et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est hands up, don't shoot. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les mains en l'air, ne tirez pas. Ah, là, on demande, est-ce que, s'il vous plaît, on demande poliment, est-ce que vous pouvez arrêter de nous tirer dessus? Bon, c'est un concept, hein. Après, est-ce que c'est efficace? Je n'ai pas l'impression.
Non, je ne pense pas. La preuve, c'est que Jacob Blake ne devait pas recevoir cette balle. Hein.
Voilà.
Ouais. Je ne pense pas que c'est ça efficace. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Il disait, je vais mettre ça. Il disait, moi je voulais demander quelles sont les banques noires qui existent, s'il vous plaît. Est-ce que
j'ai pas de nom en tête, mais il existe tout un panel. Je pourrais retrouver un peu plus tard le listing et tu le mettras dans la barre de description de la vidéo. Mais il existe, en tout cas aux États-Unis, des banques noires. Ça existe. Il n'y en a pas beaucoup de mon point de vue, mais elles existent. Les banques africaines, je ne les connais pas assez, mais là, il y a une qui est très connue, qui s'appelle EcoBank, qui a l'air de bien fonctionner. Donc, il y a des banques africaines aussi. Après, ça dépend où est-ce que vous vous situez. Mais je peux faire la recherche et te donner ça. Tu pourras la mettre dans la barre de description sans problème.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, maintenant, dans ta chaîne YouTube, j'ai constaté également que tu mets un accent particulier sur l'éducation de la communauté, c'est-à-dire à travers les histoires que tu racontes. D'où te vient, bon, à la base, c'est vrai, tu as dit qu'à la base, ce sont tes parents qui t'avaient déjà quelque part donné cette motivation-là depuis l'enfance. Mais au bout d'un certain temps, même parce que moi, je fais partie du principe qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, ils ont été éduqués par leurs parents de faire certaines choses, mais qui ne suivent pas forcément la voie de leurs parents. Qu'est-ce qui t'a rendu téméraire de continuer dans quelque chose? Parce que tu aurais pu prendre les excuses du fait que je suis chez les Blancs, ça va, je suis bon à moquer, j'ai un certain confort, pourquoi est-ce que je dois forcément revenir à parler des choses de l'Afrique. Qu'est-ce qui a été l'intérêt pour toi de continuer à éduquer les gens sur la cause des Noirs, en fait? D'où te vient cet intérêt en particulier?
Oui, alors le premier, évidemment, je le répéterai toujours, c'est vraiment d'abord mes parents. Mm-hmm. Qui ont fait ça depuis mon plus jeune âge. Donc, quand tu as été correctement préparé, donc ça devient beaucoup plus facile. Et ensuite, il y a la préparation parentale, il y a aussi la réalité du terrain. Parce que moi, on m'a dit, je suis français, mm-hmm. mais sale nègre, retourne dans ton pays, singe, ça ne marche pas là. Donc, il y a quelque chose qui... Donc, la réalité aussi m'a aussi... Et puis d'ailleurs, je pense que cette réalité-là, aussi épouvantable soit-elle, m'a rendu service, m'a empêché de m'endormir. Tu es peut-être en France, là, avec le Wi-Fi gratuit, enfin, le Wi-Fi n'existait pas, mais avec le confort des infrastructures, le confort matériel, tu as peut-être ça, mais ce n'est pas à toi. Et on te le rappelle tous les jours que tu n'es pas le bienvenu. Donc, quand même, d'une certaine manière, ils m'ont rendu service, ils m'ont maintenu en éveil. Mm-hmm. Ces gens-là. Donc, ils ont contribué finalement à me rendre... ils m'ont rendu service. Et c'est ça qui m'a motivé justement à passer cette information. Parce que c'était un jour, je lisais... je ne sais plus qui avait dit ça. Je crois que c'est Eldridge Cleaver de mm-hmm. Black Panthers qui avait dit « Knowledge is power. » La connaissance est le pouvoir. Et cette phrase... D'ailleurs, c'est même mon père qui me l'avait mentionné d'ailleurs. Et ça m'avait marqué quand il m'expliquait « Oui, avoir le... La connaissance, c'est tu détiens une forme de pouvoir. Quand tu ne sais pas conduire, on te dit, tiens, prends la voiture, conduis. Mais je ne sais pas faire ça. Tu as peur. Tu dis, mais si je peux faire un accident, me tuer. Donc, tu n'as pas la connaissance. Mais je t'apprends à conduire. Je te dis, maintenant, je te redonne les clés. Vas-y, conduis. Oh, facile. Tu vois, tu sais faire. Tu as la connaissance. Donc, quand tu as la connaissance, tu détiens une forme de pouvoir. Tu sais qui tu es. Tu sais quoi, où aller et comment faire pour y aller. Tu connais les clés. Là, on ne peut pas te raconter de bêtises et te dire n'importe quoi. Ça ne marche plus. Un peu comme, j'adore prendre cette image, le film Matrix. Mmh. Quand Neo sort de la Matrix, il voit la vérité. C'est bon. Tu peux plus lui raconter d'histoire. Il connaît la vérité. Mais c'est ça aussi qui me motive. Le fait de savoir que je découvre des choses et je continue de découvrir, je me dis, plus on est à connaître ça, mieux ça va être pour nous. Donc, c'est ça qui me motive aussi à transmettre tout ce que j'apprends aux autres.
Exact, exact, tout à fait. C'est comme au niveau du fait là où à un moment donné tu as reçu la pilule et après tu commences à faire plusieurs copies en fait.
Exactement. Je fais des copies de la pilule et j'essaie de la donner aux autres. Et puis d'ailleurs pour répondre à la question qui est affichée.
Oui, est-ce que Jimmy veut se lancer en politique?
Je fais à partir du moment où vous faites ce que je fais, c'est un acte politique. Mm-hmm. Où vous décidez d'utiliser votre savoir, le peu de choses que vous avez appris, à le partager avec les autres, c'est un acte politique. À partir du moment où vous décidez de vous recentrer sur votre communauté, sur vous-même, c'est un acte politique. Vous décidez de consommer noir le plus possible, c'est un acte politique. Vous voulez éduquer les autres, c'est un acte politique. Tout ce que nous faisons, le fait que nous parlions entre nous, nous essayons de conscientiser les autres, c'est un acte politique. Parce que si on attend d'entrer en politique, avoir le pouvoir pour éventuellement tenter de changer les choses, bonne chance. Commence par ce que nous faisons. Exemple, et chacun a un rôle. L'entrepreneur va entreprendre, il va créer de la richesse, il va créer de l'emploi. Donc, celui qui cherche un travail va pouvoir travailler. L'instituteur va pouvoir enseigner. Le sage va pouvoir donner son savoir à celui qui travaille, parce que celui qui a faim ne va pas écouter. Tant que celui qui a faim, qui dit « oui, moi j'ai faim », arrêtez de lui parler de savoir, de connaissance, il a faim. Donc, c'est à l'entrepreneur, celui qui crée de l'emploi, va donner de l'emploi à celui qui a faim, qui pourra manger. Une fois qu'il peut manger, il sera plus enclin à écouter le sage, l'instituteur, le professeur, le chercheur, etc. etc. Vous voyez, chacun son rôle. Le militant va faire du militantisme. Et tous ces gens-là, mis bout à bout, la société civile, en fait, pour parler autrement, va avoir un moyen de pression, justement, sur les différents gouvernements. C'est ensemble, c'est pas chacun de son côté. C'est pour ça que je crois dur comme fer au panafricanisme. C'est ensemble que nous y arriverons. Pourquoi on dit, sinon on est en contradiction totale avec les belles phrases qu'on entend, seul on va vite, ensemble on va loin. Ben, si c'est vrai, faisons-le. C'est beau de dire ça, ah, c'est une belle phrase, hein, et c'est une très belle phrase, mais il faut l'appliquer.
Exact. Sinon,
c'est des blabla.
Exact, exact. Mais tu sais, l'application, c'est pas toujours évident, hein, dans un contexte là où tout le monde est individualiste. Est-ce que tu vois un peu? Et puis même aussi, l'école nous a rendus individualistes, Jimmy. Il ne faut pas aussi le dire. Les gars, la preuve, c'est que même quand on fait un devoir en classe, on est comme ça.
Chacun pour soi.
Est-ce que tu vois un peu? L'école aussi, quelque part, nous a rendus individualistes. Et quelque part, cet individualisme a continué encore dans la vie de tous les jours, dans la création de business. Non, moi, je ne vais pas venir avec Jimmy parce que non, je ne sais pas ce que Jimmy, peut-être que Jimmy a venu me faire tomber mon business. Est-ce que tu vois? La première chose qu'on voit tous, c'est le côté négatif de la chose. Alors que si on pouvait commencer à voir les côtés positifs, on irait plus loin.
Justement, en parlant de ça, parce que c'est vrai que nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, l'héritage colonial. Hein. Moi, j'ai fait toute ma scolarité en Europe, donc ce sont les Européens qui m'ont éduqué d'un point de vue académique. Mm-hmm. Et je constate que dans beaucoup de pays africains, il y a aussi des relents et des traces du colonialisme. Hein. Tu as beaucoup d'Africains qui connaissent très très bien les auteurs français, mais qui ne connaissent pas du tout les auteurs africains. Tiens, mon invité de dimanche, Gracien, nous avait expliqué que voilà, il a découvert la culture Ifa en lisant un livre, alors qu'à l'école, on ne l'a jamais enseigné ça dans son propre pays. Et tiens, donc il y a un gros problème. Mais encore une fois, c'est à cause de l'héritage colonial. Eh bien, il se trouve que nous assistons à un petit vent de changement. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Tu as, j'en avais parlé dans une autre émission, son nom m'échappe malheureusement, un Ghanéen qui a créé des écoles d'excellence qui s'appelle ALU. Les écoles s'appellent ALU. Ça s'appelle. J'ai oublié le nom. Il y a des écoles qui ont été créées au Rwanda, une sur l'île Maurice. Et il compte créer comme ça une chaîne d'universités d'excellence en Afrique. Un, pour combattre la fuite des cerveaux. Deux, pour former les futurs leaders africains à l'africaine, pas forcément sur le modèle occidental. J'essaie de me rappeler le nom complet de l'école, c'est un mot anglais, mais attends, donnez-moi 30 secondes, je vais essayer de retrouver. Voilà, okay. African Leadership University, ALU, African Leadership University. Donc, okay. On a créé un genre d'école justement pour combattre cette façon dont on a été, beaucoup d'entre nous, éduqués, élevés par l'école au modèle occidental. Donc, tu vois, l'Afrique, on n'en parle pas beaucoup de cette Afrique-là, et c'est cette Afrique-là que moi, j'aime et que j'aimerais qu'on parle un peu plus souvent. D'où l'intérêt. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai créé ma chaîne, c'est dans cette optique-là.
Exact, exact. Oui, parce que la plupart du temps, c'est la raison pour laquelle j'évite même de beaucoup regarder les médias, parce que les médias sont toujours en train de nous peindre une Afrique qui a faim, en fait. Est-ce que tu vois? Une Afrique là où du genre, il y a les enfants qui ont des gros ventres et qui ont des t-shirts sales. Et moi, la question que je me pose toujours, c'est qu'à chaque fois, même dans mes pires cauchemars en Afrique, il n'y avait pas un enfant qui avait un haut sale de la sorte avec un gros ventre.
Et non, il faut comprendre que c'est à dessein. Parce que moi, vous le savez maintenant, je suis né en France et moi, toute ma vie, je n'ai vu que ce genre d'image. Depuis que j'habite en Occident, j'ai eu l'occasion de vivre dans plusieurs pays européens. Maintenant, j'habite au Canada. Je n'ai jamais vu autre chose que ça. Quand je regarde les médias occidentaux, c'est il y a la guerre, c'est sale, il y a des maladies, les gens ont faim. Alors, à force de voir ce genre d'image, ça modifie votre mental, votre mindset, votre façon de voir les choses. Donc, au final, pour vous, Afrique égale problème.
Exact.
Ou l'expression de l'autre peau d'orange, là, Trump, quand il a parlé des pays africains. Lui, là, il a dit ouvertement, mais il y a plein de gens qui pensent la même chose. Pourquoi? À cause de ce genre de choses. C'est pour la raison pour laquelle il faut que nous soyons très attentifs à l'image que nous véhiculons de notre propre continent. Ça nous appartient à nous. Ce n'est pas les Européens qui vont le faire pour vous. Ils ne sont pas là pour nous rendre service.
Yeah, yeah. Exactement, exact. À la base, même eux, ça les arrange.
Hein. Évidemment. Parce que regarde, moi, quand toute ma vie, enfant, je vois ce genre d'image, qu'est-ce que ça a créé à ton avis? Mais je n'avais pas envie d'aller en Afrique, moi. Attends, regarde les images qu'on me montre à chaque fois. Un enfant qui est en train de mourir de faim avec la mouche sur le visage. C'est ça l'Afrique? Mais non. Moi, l'Afrique, c'est non. J'ai pas envie de voir ça. Ça m'intéresse pas. Jusqu'au jour où je découvre qu'en fait, l'Afrique, c'est pas que ça. Oui, il y a des problèmes en Afrique, on va pas le nier. Mais le problème, ce n'est pas que ça. Les bons côtés, l'Afrique qui avance, qui bouge, on montre pas. Et quand j'ai vu les images, je fais ah ben voilà. Finalement, c'est pas l'Afrique qu'on me montre. Donc, encore une fois, on a participé à ce fameux mensonge. Et moi, comme je n'avais qu'une seule source d'information, je m'abreuvais de ça. Je dis, ouf. Et quand mes parents m'ont dit, mais espèce d'imbécile, regarde tous les livres qu'on t'a fait lire et toi, tu te contentes de regarder la télé. Et c'est là que je me suis dit, ouais, finalement, ce qu'essayaient mes parents de me faire comprendre, encore une fois, ben finalement, ouais, la télé, ouais, bof, quoi. Donc, ce n'est pas la meilleure source d'information, la télé. Si vous pouvez éviter au maximum la télé, mes chers amis, vous ne ratez rien. Hein.
Très exact.
Ah oui.
Exact. Encore que là, encore ça, c'est un autre sujet, parce que la manière dont les gens achètent les bouquets d'abonnement de chaînes en Afrique, c'est compliqué, est-ce que tu vois? C'est compliqué, surtout avec le football et tout ce qui va avec, c'est pas évident, est-ce que tu vois? C'est vraiment pas évident.
Faire une aparté là-dessus. Mm-hmm. Personne ne dit qu'il ne faut pas se divertir. Certainement pas moi. Sauf que tu remarqueras, soyons objectifs et honnêtes, vous avez dans une société humaine environ trois types d'individus, les pauvres, la classe moyenne et les riches, pour faire simple. Je vous invite, faites un peu de recherche, comment se divertissent les pauvres? Avec quoi et comment? Comment se divertissent la classe moyenne? Avec quels moyens? Comment se divertissent les riches? Et vous allez voir que ce n'est pas pareil du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Aucun rapport. Donc, analysez comment ces gens-là se divertissent et posez-vous des questions. Et puis même, analysez-vous vous-même comment vous vous diversifiez, par rapport à ces gens-là. Et puis après, faites votre bilan.
Exact.
Et vous allez voir qu'en changeant juste des fois un petit détail, votre façon de vous divertir, vous allez voir que ça va changer votre vie aussi. Par exemple, moi, depuis que j'ai arrêté de regarder la télé, tiens, beaucoup de choses ont changé pour moi et en positif.
Yeah, exact. Mais il y a quelqu'un qui dit quelque chose, il dit « La maison va presque tomber, mais le mec a le parabole et toutes les chaînes et il paie un abonnement chaque mois. » Oh, ça, cette histoire-là est tellement familière, man.
Oui, oui, oui.
Waouh, ça c'est tellement vrai. Je n'aurais pas pu dire mieux, Charnak. Ça c'est tellement vrai parce que souvent, quand tu es en Afrique, quand tu sillonnes les rues, en fait, tu as juste l'impression que dans la maison là, mais en fait, ce qui te rappelle que non, mais même si la maison tombe, c'est pas grave, man. Mais nous on a l'abonnement, man. Est-ce que tu vois?
Tu vois le sens des priorités?
Exactement, man. Exactement. Le sens des priorités. C'est-à-dire la maison est prête à tomber. Non, ça, ce n'est pas grave. Mais à partir du moment là où j'ai mon abonnement, c'est ce qui va, quoi.
Laissez-moi vous donner un petit truc, un truc simple, bête. Moi, par exemple, moi, je parle de moi. Moi, j'aime les beaux vêtements aussi. Hein. J'aime bien avoir, mettre sur mon dos mon beau costume, mes belles paires de chaussures, ma cravate. J'aime, hein. J'aime. Mm-hmm. Bon. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais une paire de chaussures de sport, les Nike et compagnie, là. OK? Jusqu'au jour, encore une fois, mes parents qui me disent « Bon, Jimmy, tu as le droit de t'amuser, c'est bien, mais tu gaspilles ton argent. Est-ce que tu as vraiment besoin d'acheter des baskets aussi chères parce que c'est la marque machin, marque truc, tralala, tralala. » Et puis un jour, c'est quelqu'un avec qui je discutais me disait « Mais tu devrais multiplier tes sources de revenus. » Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprenais pas. Et puis, il revient à la charge et puis il m'explique un truc. Il dit « Regarde, tes chaussures Nike, là, ça t'a coûté combien? Ça t'a coûté 100 $. Bon, admettons, tu achètes des actions de Nike, 100 $. Ça te donne des bénéfices, tu as les dividendes tous les ans qui tombent. Et comme tu as des actions Nike, donc tu es copropriétaire de Nike. » Et là, je fais « Quoi? Quoi? Attends, quoi? Comment ça? Et là, il a titillé ma curiosité. Je me suis acheté des livres pour comprendre. Maintenant, j'ai plus de Nike. J'ai plus de basket Nike, j'ai des actions chez Nike.
Waouh!
Tu vois un peu le trend de mindset? J'ai pas de Nike, c'est pas grave. Yeah. J'ai des baskets pas chères là, c'est pas grave. J'ai des actions chez Nike et Nike me redonne l'argent. Alors achetez des Nike, messieurs, dames. Vous allez contribuer à rendre tonton Jimmy riche.
Tout à fait. Mais c'est même bien que tu parles de ça parce que j'ai souvenance que tu as interviewé quelqu'un dans ta chaîne à travers il expliquait un peu comment investir en bourse, en fait. Et toutes les personnes qui sont connectées, justement, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Jimmy également, parce que, justement, c'est quelqu'un qui donne du contenu de qualité. Et justement, moi-même, pour la petite histoire, je suis allé regarder en intégralité l'interview et je suis même allé dans le site du monsieur en question. Le monsieur, clairement, il parle de la bourse vraiment de façon simplifiée, en fait.
Exactement. Parce qu'encore une fois, c'est un truc qui est très malin, parce que nous tous ici, la première réaction que nous avons, donc on dit bourse, on ne comprend rien. Ben oui, c'est normal, on ne comprend rien et on utilise des mots qu'on ne comprend pas, donc on pense que c'est compliqué. Et on nous dit que ce n'est pas pour nous. Et moi, je me suis dit, mais si ce n'est pas pour nous, pourquoi il y a des gens qui y vont alors ?
Exact.
Pourquoi ces gens-là, ils y vont si ce n'est pas pour nous ? Qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces gens-là, que moi, je n'ai pas ? Ben, ils ont, tu sais ce qu'ils ont de plus ? L'information. Knowledge is power. Ils ont l'information que je n'ai pas. Bon, ben, comment je vais faire pour avoir la formation ? Donc, je lis des livres, tu prends une formation. En fait, on oublie souvent qu'il faut de la fois investir en temps, en argent parfois, pour obtenir l'information, pour pouvoir naviguer dans ce monde-là. On dit oui, mais il y a du risque dans la bourse. Évidemment qu'il y a du risque. Quand tu prends ta voiture, il y a un risque. Tu peux te faire taper par un fou furieux aussi. Tu marches dans la rue, tu traverses, un fou furieux te tape dessus. Il y a des risques partout, sauf que les risques, évidemment, sont calculés. Mais tu apprends tout ça. Donc, risque, il y a des risques, j'y vais pas. Fine. Alors, pourquoi ceux qui y vont, y vont ? Pourtant, il y a des risques pour tout le monde. Tu vois ? Parce qu'ils n'ont pas l'information. Et dès que tu as, encore une fois, j'insiste, c'est pour ça que la connaissance est puissant. Vous avez la connaissance, vous savez quoi faire, où faire, comment faire. Je vous donne un travail à faire. Admettons, vous êtes boulanger. Je dis, bon, vous n'avez jamais touché à la boulangerie de votre vie. Vas-y, va me faire un pain. Mais je ne sais pas faire. Qu'est-ce que je dois faire ? Vous ne savez pas. Mais une fois que vous êtes formé à la boulangerie, je dis, bon, allez, va me faire un pain maintenant. Oui, vous savez quoi faire, comment et quand. Voilà. La connaissance, messieurs, dames.
Et justement, dans la communauté, certains d'entre nous, on est encore... Certains sont encore au niveau là où ils sont là justement parce que certains ne veulent pas posséder la connaissance.
Eh oui.
Ils
ne veulent pas mettre l'effort et des fois. Tu sais, si quelqu'un met en place des formations comme le monsieur en question, là, Léo, il s'appelle, c'est quand même pas gratuit, c'est son métier. Tu ne vas pas lui demander de te faire former gratuit quand même.
C'est ça. C'est ça.
Quand tu veux passer ton permis de conduire, tu demandes que ce soit gratuit ? Non, tu vas à l'école de conduite, tu payes ton. Ben voilà.
En fait, c'est ça, en fait, le truc, c'est que, tu vois, quand c'est quelqu'un de la communauté qui offre un service, on se sent toujours obligé de dire que non, mais donne ça cadeau ou discutons du prix. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, on est prêt à payer sans discuter, en fait.
Je ne le redirai jamais assez, le mindset.
Yes.
Le mindset. Vraiment, mes très chers, pour vous donner un exemple, observez comment font les autres. Moi, j'ai eu l'occasion de côtoyer d'assez près les Chinois et les Juifs. Oh là 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 là. Mais c'est une leçon. C'est une leçon. Ces gens-là, au quotidien, vous donnent une leçon. Donc, si vous avez l'occasion de côtoyer d'assez près des Chinois et des Juifs, faites-le, observez comment ils font. Ils sont en train littéralement de vous dire comment faire. Donc, si vous pouvez le faire, si vous n'êtes pas obligé de me croire, allez voir comment ils font. Ils vous disent comment faire entre nous et pour nous. Exemple, je donne cet exemple à chaque fois. Au nord de Toronto, il y a une ville, il n'y a que des Chinois là. Il n'y a que eux. Ils ont tout acheté, tout. Et ils ne passent pas par les banques. Ils ne veulent pas donner leur argent aux banques étrangères. Non, non, non. C'est entre eux. Il y en a un qui achète, il vend à l'autre. Et quand il veut vendre, il ne te vend pas à toi. Il vend à son compatriote. Et quand il achète un commerce, il fait venir ses compatriotes depuis la Chine pour travailler, pas toi. Et quand celui qui est arrivé à acheter la maison, il veut acheter à manger quelque chose, il va dans le magasin du compatriote, pas chez toi. Et l'argent circule. Il n'y a pas de « fais-moi un prix, fais-moi… » Il n'y a pas de ça.
Tu vois? C'est juste… Voilà. Ouais, c'est juste terrible en fait. C'est juste. Mais on espère que on se bat pour que les gens comprennent, hein, ce que tu vois.
Oui, absolument. Le combat en vaut la chandelle parce que si nous on l'a compris, les autres ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils vont comprendre aussi. C'est juste que, tu sais, parfois le changement de mindset ne se fait pas du jour au lendemain. Des fois, ça prend du temps. C'est à la répétition, la répétition, la répétition que les choses arrivent et changent. Donc, il faut être un peu patient et persévérant.
Exact, exact. Et c'est ça aussi, il y a quelqu'un qui dit, La gratuité. Attends, je vais mettre ça en.
Exactement.
Bien sûr.
Comment ça gratuit? Mais c'est un travail que je fais, il faut me payer pour mon travail. Quand vous
Bien sûr.
allez faire vos courses chez les autres communautés, tu dis pas fais-moi gratuit. Donc comme c'est ton frère noir qui fait un truc, tu veux que ça soit gratuit pour toi. Et au nom de quoi? Comment tu fais pour développer la communauté si tu vends tes produits gratuitement? Mais comment tu gagnes ton argent? Comment tu vis après? Ça n'a pas de sens. Et c'est ça notre gros problème. Si on n'arrive pas à changer cet état d'esprit-là, ouh là là, ça va être compliqué.
Yeah, exact. Waouh, on est pratiquement presque à 1h30 déjà. Ben écoute, Jimmy, est-ce que tu penses que, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur la communauté noire, est-ce que tu penses que aujourd'hui on peut espérer qu'un jour la communauté noire se relève et arrive à être aussi compétitive que d'autres communautés à travers le monde?
Alors, non seulement j'y crois, mais j'y crois tellement parce qu'on en a la preuve tous les jours. Dans tes émissions, tu invites des gens qui réussissent. Dans d'autres émissions, je vois des gens qui réussissent. Dans mes émissions, j'invite des gens qui réussissent. Le problème, c'est que peut-être qu'on ne leur donne pas assez la parole, on ne fait pas assez de lumière sur ces gens-là. Mais tous ces gens-là, que ce soit l'Afrique continentale ou la diaspora, ce sont des gens qui réussissent, que ce soit dans le domaine du business, que ce soit dans le domaine du militantisme, que ce soit dans le domaine de la littérature, que ce soit dans le domaine de la connaissance, du partage du savoir, ce sont des gens qui arrivent. Et ces gens-là, le fait de mettre en lumière tous ces gens-là, c'est un message que j'envoie aux autres en disant, regardez, ils ont réussi, vous pouvez aussi. Imitez-les, écoutez leur parcours. Voilà. Et ils vous disent en plus, voilà comment j'ai fait. Bon, ben, on vous donne en plus le mode d'emploi.
Exact,
Donc oui,
exact.
c'est l'Afrique. L'Afrique qui entretient, qui entreprend, pardon, l'Afrique qui innove, l'Afrique qui investit, l'Afrique qui réussit existe. On ne la voit pas assez, peut-être qu'elle n'est pas assez nombreuse, mais elle existe, cette Afrique-là. L'Afrique change. Le temps où j'ai connu un temps, effectivement, l'Occident faisait littéralement ce qu'elle voulait au pays, les choses changent. Regarde ce qui se passe au Mali. Le Mali a dit, bon, ça va, ça suffit maintenant. Donc voilà ce qui se passe au Mali. Le Mali a dit, la France l'a arrêté, laissez-nous. La Côte d'Ivoire s'agite parce qu'on se dit, il y a quelqu'un qui veut reprendre le pouvoir alors qu'on sait pour qui il bosse et pas forcément pour les Ivoiriens. Et les Ivoiriens disent, non, on ne va pas se laisser faire. Oui, les choses bougent. Alors évidemment, je suis conscient que les choses ne bougent pas aussi vite que nous aimerions, certes, mais ça bouge quand même. Donc oui, même si moi, de mon vivant, d'ailleurs, je suis content, je vois ce changement à travers les lives que je fais. Je le vois ce changement. Donc c'est la raison pour laquelle des chaînes comme la tienne doivent continuer d'exister pour continuer ce travail de conscientisation. À un moment donné, on va arriver à un seuil critique. Il y aura tellement de yeux ouverts et d'esprits ouverts, ce sera inéluctable. Je pense que c'est peut-être que nous n'avons peut-être pas encore atteint cette masse critique, peut-être, je ne sais pas. Mais au moment où on en va atteindre justement cette masse critique, c'est fini. On sera inarrêtable et on n'a pas le choix. Soit on avance, on s'unit, on travaille, soit on meurt. Regardez les Premières Nations, les Amérindiens, comme on dit vulgairement, ils sont où les Amérindiens? Ils sont en voie de disparition, et je n'exagère pas. Il n'y en a quasiment plus. D'ici 2-3 générations, ben, il n'y en aura peut-être plus du tout. Voilà ce qui attend l'Afrique. Ce qui nous sauve, c'est qu'il y a des gens comme toi qui font le travail qu'ils font, il y a des gens comme les invités que je reçois qui font le travail qu'ils font, et en plus, nous avons le nombre. Il y a 1 milliard 500 millions d'Africains dans le monde et 1 milliard 200 millions juste en Afrique, rien qu'en Afrique. Donc, et mon père me le dit souvent, on extrait la qualité de la quantité. Un peu comme un chercheur d'or. Avant de trouver sa pépite, l'or, il est obligé de retirer beaucoup de gravats, beaucoup de bêtises, beaucoup de saletés. Ben nous, c'est pareil. Malheureusement, dans le tas, il y en a le discours que je tiens, ça ne les intéresse pas. C'est pas grave. C'est pas la majorité qui va changer. C'est souvent dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui fait un changement dans les sociétés? La minorité. La minorité va entraîner la majorité. Donc c'est des gens comme toi et d'autres, c'est eux, c'est vous qui allez changer les choses. N'attendez pas que le sauveur, le leader, non. Faites ce que vous faites maintenant, c'est ça qui va faire changer les choses.
Exact, exact. Mais tu sais, en même temps, quand tu parlais des Amérindiens, une fois, j'avais discuté avec une dame, elle est Amérindienne, tu vois, je lui avais posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que vous, ici aux États-Unis, en fait, il n'y a pas assez de musées pour vous, en fait, là où vous parlez de votre histoire à vos descendants, en fait. Est-ce que tu vois? Elle m'a dit, en fait, que, en fait, c'est parce qu'on nous a, On nous a retirés. Elle me dit qu'aujourd'hui, si tu veux parler avec un sage ou encore un sage amérindien, ils sont retirés dans des villages éloignés, man. Est-ce que tu vois? Et ça rejoint ce que tu viens de dire, en fait, qu'on arrive à un niveau là où ceux qui étaient natifs du territoire, on leur a expolié, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont maintenant, c'est-à-dire pour les trouver, faut voyager, faut conduire à des kilomètres pour les retrouver, en fait.
Oui.
Et si on ne fait pas un travail de conscientisation, c'est la même chose qui va nous arriver, en fait. Parce que déjà que la Chine a commencé à acquérir les terres en Afrique, donc c'est maintenant à nous maintenant, parce que souvent j'entends souvent beaucoup de personnes dire « Oh non, mais oui, moi j'ai mon terrain en Afrique, je vais aller exploiter ça quand je serai prêt. » Est-ce que tu vois? Mais justement, dans quelques années, quand tu vas rentrer en Afrique, on va te dire que le terrain que tu penses que c'était le tien là, en fait, il ne t'appartient plus depuis belle lurette.
Ça a déjà commencé, hein?
Yeah.
Ça a déjà commencé, vous allez en Zambie, bonne chance. Les Zambiens, chez eux, on leur dit « Vous n'êtes pas les bienvenus dans un restaurant, on ne veut pas d'étrangers. » On dit à un Zambien, en Zambie, qu'il est un étranger chez lui.
Yeah.
Un Chinois, qui est propriétaire d'un restaurant, dit aux Zambiens, on ne veut pas d'étrangers dans ce restaurant. Voilà où on en est. Ça commence. Donc, continuez à aller jouer au foot ou je ne sais trop quoi. Continuez dans la distraction. Et puis, au moment où vous vous réveillez, le continent ne sera plus à nous. Donc, c'est maintenant qu'il faut réagir. Hein.
Wow. Yes. Yes, c'est maintenant. It's not tomorrow. It's now. Yeah. Alors, par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur toi, parce que je reste convaincu que de toutes les façons, une heure et quelques ne pourra pas suffire de parler de toi, bien évidemment. Mais on est en train de partir malheureusement vers la fin de notre entretien. J'aimerais te poser, c'est-à-dire, j'aimerais que tu donnes un mot de fin à trois volets, en fait. Le premier mot de fin, c'est... au niveau de la gente féminine africaine.
Mmh.
Le deuxième mot de fin, c'est au niveau des parents africains. Et le troisième mot de fin, c'est au niveau de la jeunesse africaine.
Alors, concernant la gente féminine africaine, il faut savoir que dans notre culture, l'homme et la femme sont des compléments. L'un ne peut pas vivre sans l'autre, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Donc, nous ne sommes pas ennemis, nous sommes complémentaires. Sauf que, effectivement, au passage occidental, les choses ont été quelque peu bouleversées, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc, souvenons-nous de qui nous sommes. C'est la raison pour laquelle j'invite tous les gens qui parlent dans ma chaîne, qui nous aident à ça. L'homme et la femme africains ne sont pas ennemis, ils sont au contraire complémentaires. C'est la base même, c'est le pilier de notre structure familiale. Le couple uni devient donc une famille unie qui deviendra une nation unie. Donc, les femmes... Nous ne sommes pas vos ennemis, elles ne sont pas nos ennemis, nous avons besoin d'elles. Après tout, nous venons tous nous naissons tous d'une femme. Donc, rien que ça veut tout dire. Bon. Concernant, tu as dit la jeunesse africaine, c'est ça?
Yes.
Ah.
Les parents africains d'abord, c'est-à-dire. Ah,
les parents africains. Mm-hmm. Les parents africains, comme le disait, je paraphrase François Fanon, chaque génération a un devoir de servir sa cause ou de la trahir. Chaque parent africain doit absolument, et j'en suis la preuve, donner tout le savoir qu'ils ont à leur disposition, à leurs enfants. Si ce savoir-là, ils ne l'ont pas, dirigez l'enfant vers quelqu'un qui l'a. L'enfant ne doit absolument pas être étranger à sa culture. C'est le pire danger qui nous guette. Et mes parents sont un exemple. Mes parents ne sont pas plus riches que d'autres, ils ne sont pas plus idiots que d'autres, mais pas plus intelligents que d'autres, et ils ont réussi. Donc, s'ils peuvent, vous pouvez. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas les moyens, Internet et compagnie, que nous avons. Donc, parents africains, on a vraiment besoin de vous pour donner les bases de notre culture aux enfants. Ce travail-là, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et quand je dis parents, ce n'est pas forcément les géniteurs, c'est n'importe quelle personne qui s'occupe de justement la jeunesse, à ce devoir. C'est la clé. Si ce travail n'est pas fait, justement la jeunesse, et j'y viens, la jeunesse sera perdue. Et cette jeunesse, justement, je crois beaucoup en elle, parce que justement, elle est jeune. Le continent africain est jeune. Le continent africain a de l'énergie, a de la volonté. Le continent africain a de plus en plus accès, justement, à l'information. Le continent africain innove. Vous avez vu dans mon émission, j'ai accueilli le fondateur de Kouman, 20 ans. Il crée un réseau social. En plus, c'est la première version qui fonctionne quasiment aussi bien, si ce n'est pas aussi bien d'ailleurs, que Facebook, à la première version. Donc, vous voyez, l'intelligence, nous avons tout. La jeunesse africaine, j'ai confiance en elle tant qu'elle est guidée correctement. Et j'ai confiance. Moi, j'ai confiance en cette jeunesse. Il y en aura forcément qui ne seront pas. Et il y aura toujours des pertes. Tu sais, dans la vie, hein, 100% de réussite, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas grave. Cette jeunesse-là prend de plus en plus conscience qu'elle est l'avenir. On a souvent cru, les générations précédentes, que l'avenir était en Occident parce qu'il y avait tout, soi-disant, on avait le confort. Mais nous avions en fait l'illusion du confort. Le confort, nous allons le créer nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. L'avenir, c'est l'Afrique. Je le dis avec beaucoup d'assurance et d'aplomb. Vous verrez, soyez patient. Mais travaillez pour ça, il ne suffit pas de le dire et on reste les bras croisés. Vous verrez que l'avenir, c'est l'Afrique. L'Afrique, il y a tout. La taille, les ressources naturelles, les terres arables, le soleil, la main-d'œuvre, les cerveaux, les plantes médicinales. Nous avons tout, tout, tout. Mais il faut se mettre au travail. Donc la jeunesse, là, moi, j'y crois. Ils sont de plus en plus conscients. Ils vont prouver au reste du monde que l'avenir est en Afrique, pas en Occident, pas en Chine, pas où. C'est l'Afrique. Pourquoi tous les autres viennent venir chez nous? Pourquoi les Chinois viennent en masse chez nous? S'il n'y a rien d'intéressant à faire chez nous, pourquoi ils viennent alors? Posez-vous la question, pourquoi ils viennent? Pourquoi faire? S'il n'y a rien à faire chez nous, c'est un continent dégueulasse qui ne sert à rien. Pourquoi venez-vous? Donc ne laissez pas. Si vous laissez la nature horreur du vide, vous ne faites rien, la nature va s'occuper de vous. Donc, mes très chers, la jeunesse africaine, moi j'ai confiance en vous. N'abandonnez pas le combat. Écoutez les anciens, ils ont leur part, ils ont quelque chose à dire. Écoutez les sages, ils ont été là avant vous, ils connaissent des choses que vous ne savez pas. Servez-vous de leur sagesse justement pour vous aussi avancer encore plus loin et plus vite. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer.
Waouh! Je pense que les jeunes qui sont là dans le live ont pu s'abreuver à la source du sage Jimmy.
Merci. Donc, et surtout, n'hésitez pas, il faut lire. Instruisez-vous. Lire encore et encore. Le savoir est dans les livres, n'ayez pas peur. Allez-y. Et en plus, c'est souvent, ce savoir-là, c'est le vôtre. On vous a fait croire que ce n'était pas à vous, mais c'était le vôtre. Dimanche dernier, Gracien nous a fait découvrir la culture IFA. On ne connaissait pas, on nous a dit c'est diabolique, c'est pas vrai. Alors que notre culture, elle est millénaire, plusieurs fois millénaire, avant même que les Européens commencent à se poser ce genre de questions. Donc lisez, allez chercher la connaissance, elle est dans les livres. Lisez encore et toujours, n'arrêtez pas.
Exact, exact. Lisez ce qui peut vous emmener plus loin.
Exactement.
Yeah, exact. Ben écoute, Jimmy, merci.
Merci à vous, merci de m'avoir reçu, ce fut un plaisir.
Yeah, c'est nous qui te remercions et on espère qu'on va se retrouver encore prochainement pour d'autres émissions d'une telle envergure et on se dit à la prochaine. Et surtout, les amis, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne de Jimmy, de Africans Chronicle et à la chaîne Guerrier Mental pour qu'on continue à faire en sorte que l'Afrique ne soit plus un continent qui puisse faire pitié, parce que c'est ce que les médias nous donnent à la télévision à longueur de journée et sur Internet, que c'est un continent qui a besoin de dons, qui a besoin d'offrandes à chaque fois. Donc, alors qu'on a tellement beaucoup de choses à faire valoir en Afrique, et c'est la raison pour laquelle nous, on continue à créer ce contenu-là. Et la meilleure chose que nous, on peut dire, c'est que continuez simplement à nous encourager en vous abonnant à nos chaînes et en partageant davantage nos contenus. C'est la seule chose qu'on vous demande, et c'est gratuit en plus. Déjà que nous, dans la communauté, on aime le gratuit, n'est-ce pas?
Exactement. Donc là, c'est gratuit. Allez-y, n'ayez pas peur. Et lire aussi, c'est gratuit. C'est un investissement. Vous achetez des livres, vous déployez votre connaissance. Donc, n'hésitez pas.
Yeah, tout à fait. Juste pour terminer, Jimmy, oui. Est-ce que tu peux me donner comme ça à chaud 3 ou 4 livres que les jeunes dans la communauté, pourquoi peuvent lire? Si tu en as l'occasion, bien évidemment.
Oui, alors, oh là là, il y en a tellement.
Oh, wow. Ok.
S'il fallait en choisir 3, alors ça va être biaisé parce que je suis un fan inconditionnel de Malcolm X. Donc, okay. Lisez son autobiographie, c'est très intéressant. Mm-hmm. Je vous invite à lire aussi, évidemment, alors là, l'illustre Cheikh Anta Diop. Si vous ne lisez pas du Cheikh Anta Diop, laissez-moi tranquille. Mais je sais que ce n'est pas pour tout le monde. C'est vrai que si on ne connaît rien de l'histoire africaine et on commence par Cheikh Anta Diop, ça peut faire peur. Lisez alors Joseph Kizerbo. l'histoire de l'Afrique noire. Lisez aussi Homo Tunde, qui fait un traité sur l'Afrique noire aussi, c'est très intéressant. Et bien évidemment, alors là aussi, si vous voulez littéralement commencer, lisez aussi le livre de M. Gratien Aoumenou, qui parle des quelques clés d'IFA. Moi, je l'attends avec impatience, ce livre, qui nous explique avec poésie et avec simplicité et tellement de pédagogie la culture IFA. Vraiment, dans le live, moi, il m'a bluffé, ce monsieur. Vraiment, moi, je ne sais pas si ça s'est vu, bon, là, je peux dire maintenant, mais je me suis retenu pour ne pas pleurer dans le live, tellement j'étais ému, ça m'a vraiment bluffé, cette qualité d'explication et la richesse de notre culture. Donc, vraiment, trois livres à lire. Alors, Malcolm X, parce que vraiment, c'est un leader extraordinaire. Cheikanta Diop, virgule Homo Tunde, donc 3,5, et Gratien Aoumenou. Commencez par ça, vous allez avoir de bonnes choses à vous mettre sous la dent en attendant d'étoffer votre bibliothèque.
Exactement, et surtout pour ceux qui ne sont pas en Afrique, parce qu'il y a aussi cette excuse-là en disant qu'on ne peut pas acheter les livres. Le truc, c'est que si vous êtes en Afrique et que vous avez YouTube et que vous avez la connexion, tapez simplement les référentiels que Jimmy va vous a juste donné. Et pour la petite histoire, pour le dernier auteur, il a justement fait une histoire, il a fait une interview avec ce monsieur-là pour que vous ayez du contenu. C'est-à-dire, ne dites plus que la situation géographique de l'Afrique, on ne peut pas acheter ses livres. Non, tapez simplement les auteurs qu'il a donné là sur votre barre de recherche YouTube. Que d'aller chercher les livres ou encore les vidéos qui parlent de comédie à longueur de journée ou de théâtre. De grâce, les amis, si on veut que la communauté se soulève intellectuellement parlant, et orientez aussi bien vos recherches de connaissances. Vous allez simplement à la barre de recherche de YouTube, vous tapez tout ce qu'il a pu dire là, vous allez commencer à recevoir du contenu de qualité et gratuitement. Maintenant, ceux qui vont acheter les livres, il n'y a pas de problème. Mais pensons à tout le monde. On pense à tout le monde justement quand on parle comme ça. Exactement. Donc, encore une fois, c'est même difficile de se dire au revoir tellement il y a tellement de choses à dire.
Ouais, c'est un plaisir.
Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, si le temps nous permet, on pourra faire la deuxième partie de cette émission. Et voilà, quoi, on pourra en reparler. On va parler en off, Jimmy et moi, et voir comment on peut faire la deuxième partie avec plus de contenu. Mais dans tous les cas, restez connectés parce qu'il y a des belles choses qui arrivent encore. Sur ce, on se dit à la prochaine. Et surtout, merci encore, Jimmy, à toi d'avoir rendu cette émission possible.
Merci de m'avoir reçu et merci à tout le monde. Et puis, on continue le combat. À très bientôt.
OK. Bye bye.
Bye.